Un coin des pixels.
Ok, bien le bonsoir, youhouhou, c'est le podcast de Un coin de pixels. Aujourd'hui, nous sommes en charmante compagnie avec les illustres membres de Chagada Games et donc Sandro. Salut les loulous.
Bonjour.
Bonsoir.
Hello.
C'est déjà bien parti.
Bonsoir. Bonsoir. Tu veux que je parle pour toi ? Bonsoir.
Alors, avant de commencer, je vous fais un bref petit sommaire. Alors avec des super noms qu'on a pensé pour bien chapitrer. Alors on commence avec 5 secondes dans le coin. En fait, c'est un nouveau truc qu'on a plus ou moins qu'on a commencé à mettre en place. On verra ce que ça donne. Mais sommairement, les gens se présentent. Et puis après, il y a une petite surprise.
Voilà, on vous explique le concept de la chose juste après.
Ensuite, on va parler du coin-moncement de Chagata. Donc en fait, expliquer comment le studio est né, pourquoi, un peu la genèse et puis tous les trucs à côté du jeu en fait. Donc du coup, on va apprendre sûrement plein de trucs super croustillants. Ensuite, on va faire au coin du jeu, au coin jeu même. C'est, là, on parle carrément du jeu de Chagada Games. Donc
ils sont bien, hein, nos... Non, je regarde, attends, je t'interromps parce qu'ils se moquent.
Ils se moquent.
Et justement, on se demandait...
Juste, je voulais savoir, vous allez faire tout le long des jeux de mots avec coin.
Bah, justement.
Ah, non, ça va être sur Max, moi je sens un canard, les gars.
Non, merci, parce que justement, on s'est dit que c'était à chier, mais on voulait savoir si c'était à chier.
Non, c'est vraiment
genre
merde.
À chier drôle ou
ah,
à
non,
chier
c'est
à
vraiment
chier.
Pathos. Genre,
c'est
là,
pathos.
On vous regarde avec la pitié.
Mais alors, on va demander aux gens de voter, puis si c'est pathos, on change, on en trouve des plus pourris encore pour la prochaine fois. Parce que le but, c'est de trouver...
Ça va être fatigant, sinon.
Pourtant, il reste encore.
Ah, celui d'après, il est bien, pourtant. Celui d'après, il est bien.
Celui d'après. Attends, on fait un jeu. Je dis ce que c'est le nom du chapitre et vous devez savoir de quoi ça parle, ok ? C'est sympa, ça.
Ouais, c'est bien.
Au coin du chalet.
Ça parle de jeux en Suisse.
Oh, ouais, il est bon. Hey, il est bon.
Ça fonctionne. Okay.
Ou il a écouté le podcast d'avant.
Moi aussi.
Ah, aussi. Et la dernière rubrique, ça sera les coins et les couleurs. C'est un peu là.
Voilà, et celui-là, ça parle de quoi ?
Métissage culturel.
Les coins et les couleurs, c'est les goûts et les couleurs.
Ah, oh, ouais. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce David. C'est beau.
Je crois qu'il va falloir vite expliquer à Mathieu que s'il ne parle pas dans le micro, on ne l'entend pas, puis on entendra juste un espèce de cri derrière. Donc tu te tais quand tu n'as pas le micro. Voilà.
Bon, okay. On démarre la première alors.
Ouais.
Ok, on va vous expliquer. Je te laisse expliquer ton concept.
Ouais, mais on fait d'abord une rapide présentation.
Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est bien qu'on sache à qui on parle.
Voilà,
oui, c'est juste, c'est mieux. Ouais.
Rapidement.
Ok, alors Mathieu, avant d'aller fumer une clope.
Alors, je m'appelle Mathieu Pellet. Je suis chercheur et enseignant aux universités de Lausanne et de Genève ainsi qu'à l'EPFL. À côté de ça, je suis illustrateur pour Chagata Games. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Puis sinon, les promenades dans le Valais ou comme ça. Mais ça, on reviendra sur le nom du studio après.
Merci.
Oui, alors, je m'appelle Nicolas Schluchter. Je suis informaticien dans une agence de communication. Vas-y, David.
Ok, alors, moi, c'est David, Rapidos aussi. Je suis aussi chercheur, doctorant. Je travaille à l'université de Lausanne et à l'université de Genève sur les représentations des technologies dans le cinéma et les jeux vidéo au Japon. Voilà, je suis en train de me faire ma thèse là-dessus. Et chez Chagata Games, je travaille plus sur tout ce qui est textuel, mécanique de jeu,
ouais,
level design et autres. Enfin, on en parlera
on
encore après.
On a l'occasion
après.
D'y revenir.
Ouais,
ouais.
Super.
Et puis, est-ce que c'est tout? Alors, mais présentez-nous les deux autres membres que vous avez quand même. Ou deux, un autre membre, puis il y a quelqu'un d'autre qui a participé, je crois, à vos jeux, mais peut-être que vous voulez en parler après.
Naoko, mais elle dort maintenant.
Ah, c'est, d'accord,
ouais,
ok.
Ouais, elle est fatiguée. Alors, le quatrième membre, ouais. C'est Seiko.
Voilà.
Qui est conceptrice multimédia, aussi styliste, et qu'enseigne en fait ses branches. Graphisme styliste, qui travaille en fait avec moi sur tous les aspects visuels, principalement tout ce qui est backgrounds, et puis effets spéciaux, et puis graphisme à proprement parler. Donc,
okay.
Et puis le cinquième membre, voilà. Dont tu parles, voilà. Mais qui est plus principalement attaché donc au jeu, dont je pense qu'on va pas mal mm-hmm. parler aujourd'hui, qui a fait la musique donc du jeu, c'est Philippe Goodman, Goody Guru. Et aussi encore un autre, Rapidos, on a Raphaël Gaillardet, DJ Sémiotique, qui nous a fait encore la musique du boss. Voilà. Okay. On avait besoin d'une musique un petit peu plus pêchue, donc on a aussi pris quelqu'un de supplémentaire. Donc en tout, disons, mais même si au final, c'est surtout nous quatre, Mathieu, moi, David, Nicolas et puis Seiko, qui constituent un peu le cœur de l'équipe, on va régulièrement effectivement chercher des gens de l'extérieur. Et puis pour le projet en tout cas actuel, on a donc ces deux musiciens qui nous ont donné un coup de main.
Pour apprendre un peu plus à vous connaître, on a mis en place une espèce de petit concept, d'où le nom 5 secondes dans un coin. En fait, on a une suite de questions un peu à vous balancer en rafale. Et l'idée, c'est
super.
Que vous avez... Ouais, ça va être... Mais ça touche à tout, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci. Enfin,
c'est le cas de le dire.
Vous allez comprendre assez rapidement. Par contre, l'idée, c'est qu'il y a vraiment 5 secondes maxi.
Et on passe à la suivante.
Question, puis après, on passe directement à la suivante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner en premier le nom de la personne à qui on pose la question, et puis ensuite la question.
Bon, c'est particulièrement bien pour nous parce qu'on n'aime pas trop parler longtemps.
Voilà.
Ouais, c'est... je pense que c'est ça qui est rigolo.
C'est peut-être comme ça que tu as eu l'idée. Exprès pour eux.
Ok, tu commences, Andrew ?
Ouais, je commence. Alors, tant qu'on ne précise pas de nom, on va dans l'ordre en fait. Et puis, ouais, vous venez. Et puis, à des moments, il y en a certaines qui seront spécifiques à certaines personnes, mais là, on dira.
Go.
Ok, allez, go. FPS à la manette ou au clavier ?
À la manette.
Une licence de jeu qui était mieux avant ?
Dragon Quest.
Le dernier jeu auquel tu as eu honte de jouer ?
Debut.
Le jeu que tu conseillerais à ton pire ennemi ?
Pity.
Ken ou Ryu ?
Ken.
La meilleure OST de jeu de tous les temps ?
Xenogears.
Ton signe astrologique ?
Gémeaux.
Sega ou Nintendo ?
Sega.
Quelle date pour le nude patch de Nandai Annen?
2048.
La capitale de la Slovénie.
C'est Seiko, la spécialiste, désolé.
Mathieu, femme ou homme?
Femme.
Ton jeu mobile préféré?
The Firm.
Drogue ou alcool?
Alcool.
De quel animal est inspiré Crash Bandicoot?
Sandro.
De quel animal est inspiré Jack de Jack and Daxter?
C'est pas un renard, non, c'est pas un renard.
C'est
non,
un petit truc vicieux.
La première image qui te vient à l'esprit quand je dis Pokémon?
Pikachu.
Mathieu, Final Fantasy 7 ou un jeu vidéo?
Un jeu vidéo.
Connie, d'accord avec ça?
Évidemment non.
Une pelle à un roux ou jouer à un jeu de David Cage?
Une pelle à un roux pendant qu'on joue à un jeu de David Cage. On peut faire les deux, il n'y a pas grand chose à faire dans un jeu de David Cage.
La dernière fois que tu as vomi?
Hier.
Le platformer le plus dur que tu as terminé?
Valis.
Le personnage le plus craqué de Street 4?
Rose.
David, d'un point de vue culturel, que penses-tu de l'adaptation européenne de la série Yakuza?
C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à en dire.
Ton héroïne de Disney préférée?
Pocahontas.
Merci.
Merci, messieurs. Ah, je suis très triste, hein. Tu t'es sorti brillamment du...
Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur les adaptations de Yakuza.
Puis pour Ken ou Ryu, c'est évidemment Ryu. Hein. C'est un gag. Voilà.
C'est Nicolas qui peut pas s'empêcher d'aimer des persos rouges. Voilà, il joue qu'avec des persos rouges.
Et puis Jack and Daxter, c'est un humain, hein, Jack.
Ah voilà, c'était ça le gag.
Voilà.
Bah c'est quoi comme jeu, ça? C'est européen, je pense.
Oh là là, ça y est. On a déjà un avant-goût qui va arriver. Préparez-vous. Donc, on va parler un petit peu de votre studio, du coup, pour commencer, pour introduire sur ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de la création de votre studio? Comment vous êtes rencontrés
Alors, on s'est rencontrés en fait les trois dans un magasin de jeux vidéo à Lausanne, un feu magasin de jeux vidéo à Lausanne. Et on a assez vite crushé. On a très vite voulu faire des trucs ensemble.
Pour l'histoire, donc, il faut savoir que Nicolas, il craquait des consoles. C'est comme ça qu'on l'a rencontré, magasin d'import. Il était connu sous le nom de La Chèvre.
J'ai à préciser que David et moi-même étions clients du même magasin et avons acheté les consoles craquées.
On dirait un vieux personnage de RPG, tu sais, caché.
Voilà, exactement.
La Chèvre.
Il était caché quelque part dans la campagne suisse. Et il était réputé pour mettre très longtemps à craquer les consoles. Donc on a pris la décision. Non, si, c'est vrai. On ne savait jamais quand allait débarquer au magasin.
On ne savait surtout jamais quand le magasin était ouvert.
Voilà, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Bah, un magasin de jeux vidéo, quoi.
Voilà. Et on avait pris la décision d'aller le voir directement chez lui pour le forcer assez rapidement à craquer, nos consoles à l'époque. Et c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Enfin, en tout cas, que les trois, Mathieu, moi et puis Nicolas, on s'est rencontrés. Et puis, à partir de là, ça a été beaucoup de... surtout, ça a été beaucoup de plaisir de jouer, en fait. Enfin, on s'est surtout rencontrés d'abord à travers le plaisir de jouer. Beaucoup de soirées, jeux, dans tous les sens. Et puis, à un moment, est arrivée un peu l'idée de se faire plaisir. Et puis, on a commencé à faire un petit truc sur RPG Maker.
Alors avant ça, je crois
Avant
ça, en fait, j'avais une semaine de vacances, sauf erreur, Mathieu aussi.
J'étais à l'Uni, quoi.
Enfin, t'étais à l'Uni, donc t'avais une année de vacances. Donc, je suis passé chez toi une semaine avec mon ordi, mon imprimante, mon scanner. Parce que, après avoir regardé Otaku nos vidéos, on s'est dit, mais pourquoi nous, on ferait pas aussi un dessin animé? sachant que moi, je suis complètement nul avec un crayon, c'est plutôt la partie à maths.
Otaku nos vidéos, juste, c'est.
C'est réalisé par les studios Gainax et puis ça, c'est une sorte de fiction sur la création des studios Gainax autour des deux clips d'Icon, enfin 3 et 4, de l'ouverture de la convention de science-fiction à Osaka. Et puis ils avaient fait des OAV, des animés, deux animés de 45 minutes qui retraçaient mais qui partent... c'est Gainax, ça finit dans l'espace, quoi.
D'accord.
Mais voilà.
Mais c'est sur la création de quelque chose.
Exactement. Okay. Du coup, ça nous avait inspiré. Et puis, on s'est dit, OK, on a une semaine, on peut se marrer les deux. Et puis, on a essayé de faire un clip qu'on a réussi à faire, en fait, au final, en dessin animé. Et puis, c'est de là que c'est parti tout le côté un peu créatif qui ensuite a amené, sauf erreur, au VJing, où c'était après, peut-être. Où on a créé des clips.
Non, on a fait du RPG Maker. Ensuite, on a fait du RPG Maker parce que David était au Japon pendant ce moment-là. David est revenu. On a commencé à faire du RPG Maker les trois ensemble. Est arrivée l'affaire du VJing. On s'est dit, départ, on se lance. On est devenus des professionnels de la vidéo. Enfin, ce qu'on est depuis, évidemment. Et puis, dès qu'on est professionnel de quelque chose, le VJing, c'était facile après. Puis on a réalisé pas mal de clips de VJing, les trois en fait, pour Tiger Lily, une chanteuse lausannoise, et d'autres rappeurs, etc.
Et ensuite, le jeu vidéo est venu.
Donc, le jeu vidéo, c'est venu. je crois que pour nous tous, on avait envie de faire un jeu, ça me semblait assez naturel. Par contre, la masse de travail nous faisait peut-être un peu peur. Et puis, il n'y avait aucun codeur parmi nous. Mmh. Personne n'avait jamais fait de code. Donc, j'ai appris à coder.
Ok.
Et Matt a continué à dessiner. David a fait beaucoup de recherches japonisantes.
Ouais, moi, j'étais au Japon. En fait, je suis parti au Japon. J'ai fait un séjour au Japon. Plus précisément, l'idée, disons, on a lâché un petit peu le VJing, en tout cas nous trois. Moi, j'ai continué moi de mon côté. Effectivement, Nicolas, suite au VJing, a commencé à devenir autodidacte, donc à apprendre le code de son côté. On a très rapidement lancé l'idée, effectivement, de faire un jeu vidéo. Et puis, comme on était tous autodidactes dans la pratique, dans la création du jeu vidéo, on s'est approché en fait de ce qui nous apparaissait être le meilleur point moyen, en gros, qui combine à la fois en tout cas une simplicité dans le code, ou ce qui apparaissait comme la plus
simplicité
dans le code,
simple,
et ce qui s'approchait le plus aussi de notre pratique personnelle, c'est-à-dire d'un genre qu'on avait l'habitude de pratiquer, qui était le shoot 'em up. Donc on en est arrivé très rapidement à se dire, bah voilà, on fait un shoot 'em up horizontal, parce qu'on a un défilement, on en reparlera après, mais voilà. Donc la décision a été prise. Parce que justement, on est tous plus ou moins autodidactes. Enfin, en tout cas, même si Mathieu avait déjà l'habitude de dessiner, c'était parmi les premières fois où il devait dessiner des sprite sheets, faire
tout
de l'animation.
Ça a été nouveau pour vous,
tout
quoi,
ça a été nouveau. Moi, j'avais jamais écrit, par exemple, de scénario de jeu, de script de jeu. On n'avait jamais fait de level design ou quoi que ce soit. Okay. Et puis, par la force des choses, disons, on est arrivé, je disons, comme ça aux jeux vidéo, mais surtout ce qui s'est réellement passé, c'est que Nicolas a continué de son côté, le projet, disons, à mon avis, un tout petit peu été mis de côté, disons, et puis Nicolas a continué à se former de son côté, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du code, et puis ils avaient une très belle surprise pour moi à mon retour du Japon. J'ai fait un an là-bas où, quand je suis revenu, ils avaient pratiquement un stage qui était terminé du jeu. Bon, il y avait encore beaucoup de choses à faire, mais il y avait réellement quelque chose de concret.
Le noyau, quoi.
Voilà, le noyau.
Ok.
Et puis pour le truc quand ça a repris, c'est vrai, parce que moi j'avais arrêté de dessiner pour ce jeu. Et puis c'est vrai, Connie a continué seul de son côté. Puis un soir en délirant, je fais un peu, on aurait dû continuer ce jeu. Il me fait, mais attends, moi j'ai fait. Puis il me sort son truc. Puis ça commençait à avoir, c'était jouable quoi.
Ça commençait à avoir de la gueule quoi.
Et puis voilà. Et puis on a fait un petit bout. David est rentré. Et puis après, c'est quoi, commence à faire les backgrounds.
Ok. Petite question encore dans cette. Vous êtes un studio un peu particulier parce que la plupart, en tout cas que nous on a vu, que j'ai rencontré, vous êtes les seuls qui faites aussi des jeux de cartes, des jeux de société. Comment est venue cette idée? Pourquoi? Quelle a été l'envie derrière?
Alors ça vient. Là aussi, disons pour comme pour le jeu vidéo, il y a un grand intérêt pour tout ce qui est ludique. Hein. Moi, je pratique énormément de jeux de rôle sur table, de jeux de rôle en nature, par exemple. Mais aussi, on s'intéresse aussi à tout ce qui est système de jeux de plateau. On est beaucoup moins, par contre, dans tout ce qui est jeux de guerre, jeux de figurines et autres. On est effectivement plus dans des petits jeux ou dans des jeux bien pensés à des systèmes plutôt fermés. Et... de nouveau, dans ce processus, en fait, de tout à coup avoir une envie et puis se laisser porter par cette envie, comme pour la création du jeu, au final, c'est tout le temps un petit peu les mêmes histoires. C'est 3 heures du matin, on met pause un Sakura Tyson sur Saturn parce qu'on va se faire un café à la cuisine ou autre. Puis tout à coup, on commence à discuter. Ah, mais ce serait super de faire un jeu qui ressemble à ça, un petit jeu d'apéro. En plus, il n'y aurait pas besoin de trop d'illustrations et autres. Puis tout à coup, naît, en fait, dans une espèce de petite discussion comme ça au passage, l'idée de se dire, en fait, pourquoi on se limite à se dire, nous, on fait du jeu vidéo, pourquoi pas exploser un peu le truc, puis vraiment réfléchir à se dire, on a envie, parce qu'on peut se permettre de le faire, parce que ça nous... Il y a aussi toute la pratique, par exemple, de l'auto-édition, d'imprimer soi-même ses cartes, d'éditer soi-même son matériel.
D'avoir un objet concret dans les mains aussi.
D'avoir un objet concret dans les mains, qui nous plaît aussi énormément, parce qu'il y a tout un côté collectionneur aussi dans notre consommation du jeu vidéo. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive un peu de manière complètement naturelle, parce que on ne pose pas spécialement, pour le coup, une limite réelle, en fait. On n'est pas à se dire, on est un studio de jeux vidéo, alors tous les projets qu'on doit faire, c'est du jeu vidéo.
Puis tout est assez impulsif, parce que là, peut-être en écoutant la vidéo, on a l'impression que c'est un schéma qui raconte, mais ça s'est passé, par exemple, pour Dogma Attack, ça c'est donc ce jeu de cartes.
Qui est un petit jeu de cartes.
Petit jeu de cartes, 12 cartes, partie de 2 minutes, quoi.
Qu'on est en train de mettre en place.
Et ça s'est passé exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on discutait sur le même canapé où on est posé, justement dans un café, puis là où c'est génial, c'est que David, il est aussi assez proactif. On parle de ça la nuit, on finit à 5h du mat. Le lendemain à 6h, il m'appelle, il me fait j'ai des proxys.
Ouais.
Donc voilà.
Ça va vite. C'est vrai qu'à mon avis, ce qui fonctionne bien avec ce système, typiquement pour moi qui m'occupe surtout de tout ce qui est textuel, de ce qui est, level design, mécanique et autres, on a aussi pas mal fait le level design avec Nicolas, c'est qu'en fait, c'était aussi un moment de creux où moi, j'avais plus grand chose typiquement à produire parce que le game design, les mécaniques étaient déjà plus ou moins pensées. Mon script pour l'histoire du jeu vidéo était déjà pensé. Et tout à coup, il y a une nouvelle envie qui naît, bah, comme tu dis, Mathieu, à 3-4 heures du matin. Et puis, de la même manière en fait, que dans un grand studio, les narrative designers ou les story designers, voire même les game designers, bah, en fait, très souvent, ils quittent un projet en cours pour déjà aller sur un autre projet, enfin ils ne le suivent pas jusqu'à la fin. Il y a vraiment aussi, à mon avis, qui fonctionne bien, cette idée en fait, d'avoir plusieurs projets qui permettent à la fois à tout le monde de se faire plaisir, parce qu'on bondit en fait, d'une idée à une autre, et puis on peut vraiment se faire des petits plaisirs, parce que tout à coup, Mathieu ou Seiko, ils peuvent me faire un petit dessin du jeu, du petit jeu de cartes qui est pensé, mais ça ne veut pas dire qu'on va le terminer tout de suite, mais voilà, il y a un peu en parallèle, on a plein de petites idées qui grimpe comme ça. Puis c'est vrai que nous, on peut se le permettre parce qu'on n'a pas vraiment de
voilà,
contraintes.
C'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas de contraintes financières du tout. Donc voilà. On peut se permettre de faire ça tranquillement, de justement tout à coup partir sur autre chose.
Je pense que ça transitionne pas mal vers la prochaine question qu'on avait.
Ouais,
ça, normalement, tu ne dois pas dire dans une interview que ça transitionne. Mais après,
nous, on n'est pas dans une interview, on est dans un podcast. Donc, ce qu'on veut, monsieur.
Et bam.
Ouais, l'idée c'était en fait la situation du studio c'est que vous avez, comme on l'a compris, vous avez tous un boulot ou une activité à côté. Donc du coup, Chagata c'est une entreprise un peu indépendante d'une certaine manière. Comme on dit, vous n'avez pas de contraintes, puis ça c'est.
C'est
comme ça que c'est pensé.
On a un fonds de base de 1,5 million, disons, de dollars sur un compte, quoi. Évidemment,
qu'on a hérité d'une riche héritière.
Ouais, exactement. Enfin, au Luxembourg en fait. Mais non, on a en effet quoi. C'est nous on.
Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas rentrer potentiellement dans une structure où on se fait suffisamment d'argent pour mettre de côté 2-3 activités, notamment Nicolas, je pense, qui lui, effectivement, en tout cas, à mon avis, le talent et puis l'énergie pour y aller à fond dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a plus un travail qui est fait.
C'est l'amour de produire.
Voilà, c'est l'amour
de produire.
L'amour de produire,
en fait.
C'est pour ça que c'est important de faire le lien aussi avec le VJing, avec le. On a fait aussi des clips vidéo pour certains albums, parce qu'il y a derrière toujours cette idée, il y avait vraiment une impulsion, une envie de se dire, jusqu'à maintenant, on s'est retrouvés et puis on a joué ensemble. Donc, à mon avis, à travers le jeu vidéo, c'est-à-dire on crée aussi quelque chose quand on joue ensemble au jeu vidéo, ça c'est évident. Mais là, il y avait l'idée aussi de se dire, de temps en temps, pourquoi pas effectivement se réunir et puis créer ensemble mais quelque chose de concret quoi, de matériel
ouais, d'obtenir un objet le plaisir d'obtenir quelque chose mais simplement. Et puis c'est sûr que c'est une chance parce qu'il n'y a pas de pression financière autre donc voilà ouais.
Puis j'avais une question en fait par rapport à ce que vous avez dit auparavant vu que vous êtes passé par plein d'étapes, plein de formats différents et c'est hyper intéressant. Est-ce que vous arrivez avec un peu de recul maintenant? Parce que j'imagine, on n'a pas parlé vraiment en termes de date. En fait, je pense que ça fait un moment que vous faites des trucs ensemble, etc. Est-ce qu'il y a
10 ans, je pense.
Une bonne dizaine d'années.
Je pense.
Ouais, un peu plus maintenant.
Même un peu plus, ouais.
Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre tout ce que vous avez fait? Vous voyez un cheminement? Est-ce que vous arrivez à le recouper ou bien pas du tout? Simple question. C'est un peu dur de répondre comme ça.
Non, c'est
très facile. Ouais.
Ah ouais, ouais.
Je pense la Russie, déjà.
Ah ouais.
Passion commune.
Tous les systèmes politiques communistes de base.
Exactement.
Ça généralement c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Et puis vraiment surtout un amour des tout ce qui est études nord-sud sur les échanges.
Exactement.
Europe-Afrique principalement, mais c'est vrai qu'on s'est aussi intéressé à l'Amérique quoi. Ouais. Mais on a souvent le regard tourné vers l'ouest, je dirais, mais aussi vers le sud. Ce qui nous intéresse alors par contre vraiment pas, c'est tout ce qui est oriental, toutes ces cultures un peu. Non, ça c'est. Non. Mais tout le reste,
le seul point
que
vous abordez pas en fait, c'est ça.
Voilà.
Ça jamais. Ça, ouais. Non, ça nous touche absolument pas.
C'est...
Pourtant, on a essayé de lire un peu de ces trucs, quoi. Ching, chong, chung, mais on comprend pas très bien. Puis.
Voilà, donc t'as ta réponse. T'es merci. Content de la reposer?
C'est parfait. Non, mais pour répondre plus avec sérieux, pour le coup, non, effectivement, le dénominateur commun qui est très vite arrivé, c'est effectivement ça tourne autour d'un intérêt pour les productions japonaises.
Ok.
Les productions japonaises, mais à tout niveau. Hein. Enfin, vraiment, je peux tout autant conseiller à Nicolas une série télévisée. qu'un film, qu'on est intéressé par les jouets japonais, que, enfin, il y a vraiment une, tout à coup, tout s'étend, enfin, c'est très tentaculaire. Voilà, culture religieuse, on a fait aussi des travaux avec Mathieu, notamment là autour, enfin, puisque lui, il est très autour de tout ce qui est religion. Moi, je travaille, à l'heure actuelle, plus sur tout ce qui est nouvelles technologies, mais j'ai été beaucoup sur les relations internationales, donc j'ai plus travaillé sur tout ce qui est diplomatie. Donc, vraiment, ça, voilà, ça englobe une grande partie de nos discussions, tourne quand même beaucoup autour de ce qui se passe là-bas, de comment ça nous affecte nous en Suisse, mais pas forcément avec une idée de là-bas c'est parfait, ici c'est nul. On n'est pas du tout, c'est juste on se nourrit de leur créativité, ou en tout cas de la créativité qu'on trouve là-bas, et on essaye de la réinsuffler dans nos productions à nous. Okay. Voilà.
Un des exemples, pour donner un peu des exemples concrets, c'est par exemple le traitement qu'ils ont de leur propre histoire. Par exemple, à travers les productions vidéoludiques ou animées, etc. Voilà, c'est un truc qui a, en tout cas, dont on a beaucoup parlé, qu'on aime beaucoup, et puis dont on essaye un peu de s'inspirer parfois en se disant « Ok, mais nous, notre propre culture, comment elle est traitée, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Là, on parle de jeux vidéo, donc sur un plan vidéoludique, mais ça peut être autre chose, un jeu de cartes, etc.
Ok. Ensuite, comment est-ce que vous gérez la production de vos projets? Est-ce que vous avez un système particulier de distribution des tâches, ou c'est plus chaotique? Comment est-ce que vous...
Alors en fait, c'est vu que donc il n'y a pas eu de, c'est tout dans une continuité, hein, qu'on a fait ces différents projets, le VJing, du RPG Maker, ou tout ça nous a appris à travailler ensemble, je pense. Et puis je dirais que, comme je le vois, le mot d'ordre, c'est surtout une confiance dans les tâches et ce qu'on reconnaît chez les autres. Typiquement, pour des questions de design, de dessin, je pense qu'on a entièrement confiance envers Seiko et Mathieu. Ce qui ne nous empêche pas, après, de donner notre avis, évidemment, et qu'ils écoutent généralement volontiers.
Alors, parlez-nous du rire, on a besoin de comprendre.
Donc, des fois, il y a des jolies discussions, mais c'est toujours des discussions qui sont... parce que, justement, on a l'habitude de discuter, comme tu dis, de travailler ensemble, d'argumenter. Il n'y a pas du tout la crainte de donner son avis, de tout de suite le formuler. Je pense que c'est ça qui est souvent assez nourrissant, c'est que tout est vraiment discuté, puis il est discuté quand même avec sérieux. Ouais, bien sûr, mais jamais sans s'arracher les cheveux ou quoi que ce soit. Enfin, on n'en arrive jamais justement à ce niveau-là. Mais vraiment, en prenant en compte l'avis de tout le monde, parce que très vite, ce qu'on se rend compte quand on travaille à 4 sur un jeu vidéo, c'est qu'au final... malgré tout ce qu'on voudrait vouloir, au final tous les rôles sont quand même très 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 dépendants les uns des autres. C'est très important de faire attention à la manière dont tel ou tel ennemi il est dessiné, parce qu'après il va falloir l'inclure dans le décor. Enfin, il y a vraiment ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être mis un petit peu plus longtemps pour le coup à réaliser, mais Exactement. C'est vraiment tout à coup les ponts qui se tracent entre les différentes personnes.
Ça, et la répartition du temps aussi, vu que chaque tâche prend beaucoup, énormément de temps. Trouver les personnes qui vont avoir le temps à consacrer justement sur cette tâche, comment on peut se mettre ensemble. Typiquement avec David, on a sur la fin travaillé un peu plus ensemble pour le level design, et Mathieu Seiko continuait justement sur les derniers décors, les dernières retouches de dessin. C'est des contraintes de temps aussi qui nous ont permis de
d'avancer. Mais par contre, c'est vrai que, en tout cas pour tous les projets, sont clairement décidés dès le début du projet qui fait quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment très vite, en fait. On établit, et là, il y a quand même à mon avis, on arrive à trouver un équilibre assez efficace en respectant justement, si quelqu'un, c'est son game design, on sait qu'il va avoir la priorité dans ce game design. Il va écouter les avis de tout le monde, parce que ça, c'est certainement une des choses les plus importantes, sans aucun doute. Mais il a quand même la priorité sur la décision finale, le veto. De la même manière que, effectivement, au dessin, le veto final, il est toujours à la personne Une fois de plus, on en revient à cette même idée. À partir du moment où on n'a pas plus que ça de pression financière ou de besoin de réfléchir ou de penser selon des codes qui font vendre, qui sont attractifs et autres, donc de se baser sur peut-être des théories de marketing ou des idées justement graphiques ou visuelles, ça fait qu'en fait, on peut vraiment prioriser l'envie et les tripes, en fait, les tripes de chacun, ce que lui ressent.
Et ça donne des discussions justement qui sont enflammé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où vraiment on argumente. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on va vraiment argumenter des fois un long moment pour essayer de... C'est même pas de se convaincre, quoi, mais de trouver la meilleure solution avec, au final, je trouve, si on résume, une sorte de droit de veto de celui qui a sa... de celui qui est spécialiste du domaine, quoi. C'est lui qui va prendre la décision finale, mais vraiment souvent après des... de temps en temps, des longues argumentations. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Conny, il y a vraiment... tout est lié. Et puis, tout à coup, nous, au design, on va créer un boss. David va avoir une idée de gameplay. Du coup, je vais reprendre le design pour modifier le design pour que ça fonctionne avec le... Enfin, voilà, c'est complètement interdépendant, quoi. Donc, voilà.
Ok, alors on va passer à la... On va parler du jeu, hein, dans les faits. On va... déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez commencer par le présenter aux gens qui ne le connaîtraient pas?
Donc, notre jeu s'appelle Nandeyanen, donc The First Sutra. C'est donc un shoot 'em up à défilement horizontal. Dans lequel, d'un point de vue scénaristique, on joue un Tengu, donc créature du folklore japonais, plutôt du côté du bouddhisme, si on devait faire une séparation bouddhisme-shintoïsme, qui n'est jamais tellement pertinente, à vrai dire.
Là, il faut que je l'arrête tout de suite, parce que c'est un spécialiste, c'est un spécialiste des religions, donc là, on était tout à coup, on tombe dans l'abîme, l'abîme intellectuel.
On joue une créature folklorique qui va affronter donc des yokai, créatures fantomatiques.
Attention, c'est reparti.
Du Japon. donc voilà, ça c'est un peu l'histoire du jeu pour sauver une petite renarde.
Voilà, précisons tout de suite, je te coupe. Alors précisons tout de suite en fait que ce scénario, cette forme scénaristique est un hommage directement, on va aussi le retrouver, cet hommage on le retrouve aussi dans les mécaniques de jeu, à un jeu qu'on aime beaucoup, qui est un jeu de la NEC PC Engine qui s'appelle Anna Takadaka, qui a été traduit par Super Long Nose Goblin, où on joue aussi, mais avec un visuel beaucoup plus mignon en tout cas que ce que nous on a fait, on joue aussi donc cette figure d'asset japonais, de Tengu. Et donc voilà, en tout cas en termes d'écriture scénaristique, la référence directe c'est vraiment ce jeu, c'est-à-dire... les ennemis, la renarde à sauver, et puis le personnage principal.
Et après, c'est des mécaniques de jeu. Donc, voilà. C'est du shoot, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Puis le shoot classique, c'est justement d'être, si possible, d'avoir un système un poil original. Le nôtre, il se base principalement, je dirais, sur notre système de contre. En partie.
Exactement,
donc,
ouais.
Qui rappelle Street Fighter 3-3 pour ceux qui ont joué. Donc, un contre au réflexe, c'est-à-dire quand la un tir ennemi arrive dans la zone sensible, dans la zone de touche du personnage, il s'agit grosso modo d'avoir un bouton appuyé et puis de taper un coup de stick vers l'avant au moment de l'impact pour renvoyer cette balle, ce projectile. Ça, c'est le premier système. Et puis ensuite, il y a un deuxième système qui permet de poser ce qu'on pourrait appeler des pods, sans décrire le jeu, qui sont représentés par des petits...
C'est pas des totems laser, alors.
Non, c'est pas des totems laser.
Mais alors, on aime beaucoup le nom. On aime énormément le nom.
Totem laser est vachement bien. C'est des corbeaux qui sont une autre forme du Tengu. Et là, si vous avez une heure et demie, je pourrais faire un petit...
speech, <c'est vrai. rire>
Donc voilà, et puis on en a trois à disposition. Si on les utilise les trois d'un coup, le temps qu'on puisse les réutiliser est plus long que si on sait les gérer. Donc on gardait constamment un de réserve. Grosso modo, si je résume, Ça, c'est voilà.
C'est ce que pour rigoler d'ailleurs, on avait appelé avec avec Nicolas le Epona System.
Ah, il y a une question là-dessus.
Ouais, justement.
Ah, oui, d'accord.
Mais, non, mais allez-y, expliquez-le. J'allais vous demander d'expliquer l'Epona Fuck.
Ah, voilà. Alors, le nom complet est sorti. Alors, effectivement, le nom complet, c'était l'Epona Fuck System. Parce qu'il se base, en fait, exactement sur le système des carottes de Epona, donc le cheval, dans Ocarina of Time. C'est-à-dire, le joueur a le choix. Il a 5 carottes. Soit il décide de, donc, à chaque utilisation de carottes, il donne un coup de reine. De boost, voilà, il donne un coup de boost, on va dire, à Epona lors de la course, donc. Et puis, soit on peut utiliser ces 5 carottes d'un coup pour faire un sprint, mais après, Epona, le temps que les 5 carottes augmentent, bah, on a un temps qui est plus long de récupération des carottes, qui est plus long que d'habitude, mais ça permet d'utiliser les 5 d'un coup. Soit, et c'est souvent la meilleure manière de jouer, on se maintient à peu près 2-3 carottes, et dès qu'on en reçoit une nouvelle, on l'utilise pour avoir une espèce de vitesse de course, en fait, pour plus privilégier justement
la
vitesse de croisière. Voilà, voilà, exactement.
D'ailleurs, pour celui qui voudrait reverse engineer le code, c'est écrit dans le code, l'événement lorsque ça arrive, c'est vraiment Epona Fuck triggered.
Ah ouais?
Oui.
Ah ok, d'accord, c'est marrant alors comme anecdote.
Ah ouais, non, on va jusqu'au bout de, okay. On va jusqu'au bout de nos noms. Et puis donc, on applique la même chose avec les trois mini Tengu, enfin les mini Karasu Tengu, ces petites aides du Tengu, voilà.
Les totems laser.
Les trois totems laser. On utilise la même chose, c'est-à-dire le joueur a le choix de soit les utiliser les trois d'un coup, donc ce qui fait qu'il a trois gros lasers qui nettoient un petit peu l'écran, mais là où, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'Epona Fuck, là où le problème il survient, c'est qu'à ce moment-là, si vous avez vos trois petits corbeaux qui sont utilisés, vous pouvez plus utiliser le système de contre pendant 10 secondes. Et voilà, d'où le Epona Fuck. C'est pour ça qu'on l'utilise comme ça. Et donc, la meilleure manière de jouer, ça on le dit tout de suite, en tout cas c'est comme ça que nous on joue, c'est plutôt d'utiliser, ça devient presque pour ça un jeu de rythme, c'est-à-dire d'utiliser deux Tengu, d'attendre qu'ils se rechargent, d'utiliser deux Tengu, d'attendre qu'ils se rechargent. Enfin, ça, pour le coup, il faut vraiment que les gens ils y jouent pour se rendre compte de comment ça fonctionne. Mais ça vous permet d'avoir constamment, justement, non seulement le tir principal du personnage, mais en plus constamment les deux gros tirs laser que font ces petits corbeaux. Et le petit plus aussi, c'est qu'on a créé des ennemis, des boucliers en fait, qui c'est-à-dire vous ne pouvez pas toucher les ennemis tant que vous n'avez pas libéré soit ces lasers, soit fait un contre en fait. C'est-à-dire
voilà,
que c'est des boucliers qui
la
peuvent
question
être...
d'après.
Voilà.
Alors, c'est vous parfait. Avez un système de contre. Ouais. Déjà, de où il vient est-ce que vous avez une inspiration pour ce système de contre ou est-ce que ça vous est venu comme ça?
Ça vient directement de Street Fighter 3-3, avec qui on a beaucoup joué avec Mathieu et David. Rien à rajouter.
Ouais.
Jouer à Street 3-2.
Alors justement, c'était la prochaine question en fait. Vous avez un système de contre. De quoi est-ce qu'il est inspiré?
Il est directement inspiré de Street Fighter 3-3. Voilà, jeu de fight qu'on a vraiment beaucoup dosé avec Conny. David, beaucoup du 3-2. Mais non, ça vient vraiment directement de là et on adore ce système.
Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème d'intégrer un système qui vient d'un jeu de baston dans un shoot? Est-ce que vous avez des difficultés ou au final est-ce que cette idée-là a marché tout de suite, très facilement?
Non, c'était quand même assez difficile. Au tout début, on avait un système où on pouvait constamment contrer n'importe quelle boulette à n'importe quel moment. Ce qui ne rendait pas exactement ce qu'on voulait et qui pouvait rendre le jeu beaucoup trop facile par moment. Et puis dans Street Fighter 3-3, c'est quand même aux petits oignons, c'est hyper précis, on est vraiment à la frame près, c'est génial. Là, c'est un peu plus difficile parce que on n'a pas exactement le même moteur et le même système. On n'a pas recréé, si tu veux, le système de frame à Street 3-3 où dans Street 3-3, il y a des petites pauses aux impacts. Ce que nous, on n'a pas recréé. Donc, on n'a pas exactement le même juiciness au contre. Et du coup, on a transformé ça justement avec le système de scoring au contre où on peut voilà, renvoyer plein de boulettes, etc. Donc on a un petit peu twisté dans un sens qui nous arrangeait aussi.
D'accord, donc c'est-à-dire qu'il est moins indispensable Ou c'est ça que je comprends. Et puis du coup, vous l'avez rapatrié sur, alors, en fait, sur le score.
En fait, si tu veux, tel qu'on a pensé le jeu, donc dans sa forme actuelle, le jeu, il a trois stages. On l'a sorti, il a trois stages. Le premier stage, c'est le stage où la thématique, en gros, c'est le tir normal. C'est-à-dire, on demande juste aux joueurs de savoir tirer et éviter. À partir du deuxième stage, on rajoute des boucliers. Donc, les ennemis commencent à avoir des boucliers qu'on ne peut détruire qu'en faisant le tir des corbeaux, donc des petites aides. Donc, le joueur qui ne comprend pas, qui doit jouer justement ces super tirs, il ne peut pas, c'est pratiquement sûr, à mon avis, surtout vu le boss du deuxième niveau, qui est très difficile, qui est clairement en fait la courbe de difficulté qui explose, qui est une araignée géante. Il ne peut pas passer s'il n'a pas compris ce système, mais il peut encore s'en tirer sans avoir compris le contre. Et le troisième stage est impossible sans avoir compris le contre. Donc on a vraiment pensé en fait à une thématique par stage. Donc pour vraiment un peu construire petit à petit, puisqu'il n'y a pas spécialement de tutoriel, il y a juste un how to play qu'on peut accéder, mais qui est au final, en tout cas là, on a eu beaucoup de retours sur le fait qu'il était relativement cryptique, mais bon, c'est effectivement assez difficile d'expliquer par exemple une mécanique comme le contre pour Street Fighter 3, c'est assez difficile en fait de s'en rendre compte tant qu'on ne l'a pas fait soi-même en fait.
Bah, je pense qu'il y a beaucoup qui jouent à Street 3-3 sans même jamais
utiliser effectivement le contre, tout à coup il sort et puis on ne sait pas trop pourquoi.
J'ai fait.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que tout à coup, on a appuyé sur avant. Tandis que c'est vrai que nous, notre système, si on n'a pas compris, parce qu'il faut laisser appuyer sur un bouton, ce qui déclenche une aura, et c'est seulement une fois que cette aura est déclenchée qu'on peut contrer. Donc, on n'est pas dans une situation similaire à Street Fighter où on peut le faire par hasard. Je pense, nous, avec Nandeyanen, il y a vraiment quand même l'idée que les gens doivent comprendre qu'ils doivent laisser appuyer sur le bouton, puis une fois qu'ils ont laissé appuyer sur le bouton, alors ils peuvent contrer. Donc ça, on facilite cette compréhension, notamment, ça c'est une des autres idées qu'on a eues, c'est que le personnage, une fois que le bouton est laissé appuyer, donc le deuxième bouton de tir, le personnage ralentit en fait. Donc ça peut être considéré comme un handicap, mais dans les jeux de shoot, ça peut plutôt être vu aussi comme un avantage. C'est-à-dire, le personnage se déplace plus lentement, donc on arrive à être plus précis dans nos déplacements si on veut vraiment être très précis pour éviter les balles. Donc, il y a cet indice supplémentaire qui est censé faire comprendre aussi aux joueurs que quelque chose de spécial est en train de se mettre en place puisqu'il se déplace plus lentement. Donc, en même temps, il y a une charge de super tir qui se passe et en même temps que cette charge de super tir se met en place, le contre se prépare.
Et puis, en même temps, ça reprend les mécaniques des shoots classiques à la cave où t'as un tir qui est hyper rapide, moins puissant, mais qui te fait te déplacer très vite. Un tir plus puissant, mais évidemment qui ralentit, qui permet de gérer les 2000 belettes que t'as à l'écran. Donc, ça s'impose comme un avantage aux joueurs de shoot. Puis en même temps, il y avait un souhait de notre part, quand même aussi, de demander aux joueurs, mais un peu comme en arcade, quoi, il faut jouer au jeu pour l'apprendre. On n'avait pas envie du tuto point 1, point 2. Voilà, on va te prendre par la main, puis tout expliquer. Il y a un côté arcade quand même.
Découvre,
essaye les boutons, regarde ce que ça fait. Puis ça va venir.
C'est vrai que c'est comme dit Mathieu, il vient aussi là sur les influences, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'influences. On a parlé de Street Fighter en termes de gameplay, et c'est vrai que les autres influences qui sont pour le coup vraiment directes, puisque c'est aussi des shoot 'em up, c'est les shoot 'em up on essayait de trouver, quand on discutait du game design avec Nicolas, un point médian entre la créativité des shoot 'em up des studios Treasure. Donc Ikaruga, Radiant Silvergun et encore des plus sombres, hein. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait aussi par exemple sur Mega Drive, et la folie mais voire presque la folie et la simplicité des Bullet Hell, donc des Danmaku, de ces jeux plus modernes, plus récents, de Cave, notamment des studios Cave, des studios japonais Cave, donc de trouver un espèce de point médian entre tout en faisant un jeu à défilement horizontal, donc ce qui est pas non plus aussi l'habitude. Enfin, ils sont plus rares.
Ils sont plus rares, mais un des shoots récents justement qui situe un peu entre les deux, c'est le Darius Burst.
Voilà.
Qu'un défilement horizontal, c'est encore c'est du Darius, ça semble un shoot des 90s. Mais évidemment, ils ont aussi eu l'influence des Danmaku, donc il y a quand même des petits passages Danmaku, mais il y a ce défilement horizontal.
Et pour le personnage, moi j'ai pas mal pensé aussi à Death Smiles, qui a aussi des personnages de Cave, qui a aussi des grands personnages.
Ouais, mais ça reste Hanata Kadaka. Pour le personnage, en tout cas pour la création que j'ai fait, c'est vraiment, vu que c'était un hommage à Shoot, moi c'était.
Et puis après, comme ça. Je dirais tout le reste des visuels, si on doit citer une série. En plus, disons, de Hanata Kadaka qui a inspiré les visuels, je pense que c'est la série des Goemon, de Konami, donc les Gambal et Goemon, qui ont commencé sur Nintendo, sur Famicom, et puis qui continue. Enfin, là, on attend encore le nouveau. Hein. On a eu un dernier sur Nintendo DS.
Ça fait très longtemps qu'on l'attend.
Voilà, on est en train de pleurer un peu cette série. Mais bon, tant mieux, parce qu'après, s'ils nous font un mauvais jeu, donc on préfère.
En Europe, on n'en a pas eu beaucoup de Goemon, autant vous dire. On n'a jamais vu la couleur.
C'était Mystical Ninja.
Mystical Ninja sur Super Nintendo.
Voilà, c'est ça. Mystical Ninja sur Super Nintendo et voilà donc toujours aussi avec un univers très inspiré
les gens de goût n'avaient pas
du folklore japonais.
Vous avez une Mega Drive non
on avait une Neo Geo.
Ça s'appelle les gens de goût, c'est les gens riches.
C'est les gens riches. Non, les gens de goût, ils avaient une NEC du OR.
Bon, je crois qu'on va enchaîner.
On va changer finalement d'environ le chapitre, on va parler de la Neo Geo.
Voilà, exactement, parlons de la Neo Geo.
Non, mais par contre, pour finir peut-être sur Nandeyanen, ce qui est intéressant,
c'est quand même... on a d'autres encore, on ne quittait pas Nandeyanen. Mais...
D'accord,
on a encore d'autres, mais si tu as quelque chose à dire, oui, vas-y.
Bah, en fait, je dirais, moi en tout cas, ce qui m'apparaît comme très intéressant aussi par rapport à ce jeu, c'est tous les choix techniques en fait qui ont été pris autour. Parce que là, on a parlé de l'univers visuel, on a parlé des mécaniques de jeu, mais il y a aussi une forme de spécificité qui a beaucoup été choisie par Nicolas en termes de moteur, et puis comment le moteur qu'on a choisi nous a orienté vers telle ou telle plateforme de distribution et qui a fait qu'on a dû s'y adapter aussi par rapport à notre promotion. Alors,
ça,
à qui
on en parle juste après, justement. On a des questions là-dessus sur justement comment promotion, à qui vous avez adressé, toutes ces questions.
D'accord.
À l'aborder plus.
Alors très bien.
Alors
je laisse les auditeurs se réjouir de nos futurs.
Spoiler, David. Tu spoil le podcast, quoi.
Bon, alors après, si sur les décors vous avez fait des choix techniques en jeu, si Nicolas, tu veux dire quelque chose, un truc dessus sur des choses techniques que tu as dû faire, puis là on n'a pas forcément pensé aux questions, sens-toi libre, vas-y.
Oui, alors là du coup c'est un peu de l'impro. Non, mais il y avait des choses qui étaient assez intéressantes qui sont survenues assez tard. Typiquement, j'ai préparé le moteur pour avoir du défilement de décors horizontal, donc comme si on était en train de se déplacer en direction de la droite. Puis on se dit sur un coup de tête, ce serait cool si au boss on changeait de sens.
C'est qui a eu cette idée?
Si ça se trouve, je me suis tiré une balle dans le pied.
Une balle tout seul.
Mais donc voilà, donc il a fallu implémenter le fait que ça aille aussi dans l'autre sens. Ce qui, l'air de rien, est en fait, quand on n'a pas prévu le truc au début, comme souvent en code, y a beaucoup à refaire.
Ce que tu racontes, c'est un très bon exemple justement de l'interdépendance de nos différentes spécificités, parce que le défilement de sens, je me souviens très bien, c'est que moi j'avais dessiné des boss qui marchaient, et puis vu qu'ils étaient en confrontation de l'ennemi, fallait qu'ils marchent dans l'autre sens.
Et puis
voilà comment c'est parti. Puis Connie a pu se prendre la tête pendant quelques semaines pour nous faire défiler le décor dans l'autre sens.
Alors chapeau, parce que quand on sait pas coder, quand on commence le projet,
il a eu beaucoup de petits plaisirs comme ça au fil du projet.
Ouais, parce que par exemple, on pourrait aussi citer le fait que avant les boss c'était un jeu de rythme.
Ah oui, ça c'est très important, ça. Ouais. C'est un des choses qu'on a dû abandonner.
La première phase des boss avant, c'était se transformer en jeu de rythme, et on pouvait plus tirer, donc on devait d'une part éviter les balles du boss, mais aussi suivre le rythme qui était indiqué en bas de l'écran.
D'accord. Ouais.
Idée qu'on a assez vite abandonnée.
On l'a abandonnée.
On s'y est pas trop accroché parce qu'elle était vraiment difficile à mettre en place pour avoir.
Et puis, cette idée, on l'a fait juste avant que David rentre du Japon. Puis c'était de nouveau un de ses délires. C'était avec Kony, on s'était dit, on fait un rhythm shooting game. Parce que j'aimais bien les Taiko no Tatsujin, c'est des jeux de tambour comme ça. Puis on s'était dit, on fait un rhythm shooting game. Donc c'est parti comme ça. Puis je pense, quand David est revenu, il était emballé par le jeu et pas convaincu par ce système. On avait de la peine à le mettre en place, et voilà comment
ça nous aurait demandé de beaucoup retoucher, parce qu'en fait à l'époque on avait le rythme, c'est-à-dire le défilement du rythme à suivre, qui était en bas de l'écran, donc c'était très difficile à la fois de voir le rythme en bas de l'écran et en plus de suivre des patterns de boules.
Il y a trop d'informations à gérer en,
voilà,
en même temps.
On avait, disons, en tout cas, quand je suis revenu du Japon, le mini premier prototype qui avait été mis en place permettait déjà de juger en faisant jouer à 2-3 personnes que c'était la frustration était assez énorme. Parce que il fallait écouter la musique, en plus éviter les balles. Enfin, il y avait énormément de choses qui se montaient les unes sur les autres. Et puis même si je continue de penser que c'est une très bonne idée, on a décidé en fait, on a eu une longue discussion. Ça s'est passé en une soirée avec Nicolas où on a remis à plat. C'était d'ailleurs une très jolie soirée. On a tout. C'est quelque chose que je conseille à énormément de gens qui font ce genre de, enfin qui ont envie de se lancer là-dedans, c'est de prendre un moment des fois pour remettre tout en question. C'est-à-dire de douter de tous ces systèmes, de
le célèbre retourné de table de Miyamoto chez Nintendo.
Voilà, exactement, le célèbre on en a marre, en fait ça c'est nul, ouais. En fait ça on explose, en fait enfin voilà, puis tout. Et puis cette fois, beaucoup de choses avaient été vues selon l'émotionnel, et puis on était dans une situation où Nicolas maîtrisait mieux le code, il avait une meilleure idée de ce qu'il était capable de faire, et toutes les décisions ont pu être prises par rapport à ce qu'il imaginait comme ses compétences, en fait. Donc, systématiquement, les idées que je proposais, je pouvais le regarder et lui dire, est-ce que tu penses que tu arrives à le faire ? Est-ce que tu penses que tu arrives à le faire en 6 mois ou j'en sais rien ? Enfin, tout pouvait être évalué à travers ses compétences puisqu'il maîtrisait mieux, en fait, ce qu'il était capable de faire à la moitié du projet.
D'ailleurs, j'ai une question pour Nicolas. Il y a beaucoup de gens qui, forcément, aimeraient faire des jeux, qui se disent, ah, moi, un jour, j'aimerais faire des jeux, mais je ne sais pas coder. Alors toi qui justement as cette expérience où tu débarques un petit peu puis on te dit ok c'est toi qui code, c'est parti, et que t'es parti un peu de zéro, comment est-ce que toi tu l'as ressenti à travers le projet ? Est-ce que ça a été horriblement difficile, plus jamais, si j'avais su je me serais pas lancé, ou est-ce qu'au final...
Non, c'était génial, c'était génial et vraiment incroyable parce que j'ai réalisé une sorte de rêve, alors ben pour le jeu vidéo d'une part, mais parce que aussi je me suis toujours demandé ce que c'était cette magie du code et puis ce qui se passait derrière un ordi. Donc il y a un accomplissement aussi personnel là derrière, alors je le recommande mais vivement à tout le monde. Je pense les meilleurs tips que je pourrais donner, c'est le plus vite possible s'entourer de gens qui connaissent un peu mieux que soi-même.
Okay.
Parce que j'ai perdu un temps pas possible à essayer de comprendre uniquement via les livres et des fois, mais c'est comme pour des problèmes de maths, je pense que tout le monde a eu cette expérience à l'école, on plante sur un problème de maths, on comprend plus rien, quelqu'un d'autre nous l'explique et tout d'un coup
boum,
c'est là quoi.
Ok, ouais. Ok, toi tu as quelques questions encore en réserve sur le jeu?
Il y a souvent une thématique, enfin un sujet qui est revenu, c'était le principe de la difficulté. Du coup, comment vous avez fait en fait pour l'évaluer, parce qu'on sait, enfin, quand on développe un jeu, au bout d'un moment, à force d'y jouer, d'y rejouer, c'est sûr que le regard sur le jeu il devient différent parce qu'on assimile beaucoup plus vite les mécaniques, etc. Puis on peut deviner ce qui se passe à l'écran. Du coup, comment vous avez fait pour essayer de tester puis d'ajuster au mieux aussi au travers du level design?
Alors c'est assez amusant parce que je pense que la difficulté c'est vraiment jusqu'au bout, c'était le combat. C'est-à-dire, je pense, les derniers éléments qu'on a rajoutés avant de sortir le jeu, c'était des éléments de retouche de difficulté, rajouter des villas, tel ennemi, il rajoute des bombes. Tout à coup, sorti de nulle part, Nicolas nous sort un mode, la possibilité d'avoir un mode easy et un mode hard. Donc, on se dit, OK, il faut qu'on en fasse quelque chose. Mais en même temps, on n'a pas le temps de commencer à changer 36 patterns d'ennemis. Donc, il faut trouver une manière assez efficace de réellement changer la difficulté. Donc là, ça demande vraiment de réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on modifie ? Bah, l'évidence même, bien sûr, dans un shoot 'em up, c'est le nombre de vies par continu, le nombre de continu, et puis le nombre de bombes, en tout cas de systèmes de défense qui nous protégeaient. Il y avait une difficulté par contre qui était réelle, c'est il faut se rendre compte qu'en Suisse romande, il n'y a pas beaucoup de très bons joueurs de shoot 'em up. Et nous, on avait envie de faire on n'en connaît pas énormément. Je dirais, alors c'est peut-être plus notre faute qu'autre chose, parce que peut-être il y en a énormément. Mais j'en doute un petit peu, en tout cas. Et puis, le problème réel, en fait, c'est que avec un jeu comme ça, qui est pensé avec une courbe de difficulté, qui est pensé pour plaire principalement aux gens qui aiment ce genre, parce qu'on a vraiment un jeu qui est quand même très très cadré. Enfin, on a un jeu qui est dans un genre spécifique, avec un système de jeu spécifique. En plus, c'est un jeu qu'on a principalement construit autour d'un stick arcade. Pratiquement tout a été testé avec un stick arcade, donc on a pensé le game design autour de l'objet stick. Enfin, même s'il est jouable au clavier ou à la manette, c'est évident que si on veut faire, enfin, en tout cas nous on a tendance à penser que la meilleure manière de jouer au jeu, c'est avec le stick arcade. C'est comme ça,
déjà,
vraiment...
rien qu'avec le contre pour y avoir joué.
Voilà, exactement.
Autre chose qu'un stick arcade, c'est vite compliqué.
En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints d'avoir cette fait des tendinites ou des choses comme
on
ça.
On se dit ça, mais rappelons que Luffy a gagné au pad l'Evo 14. Oui. Hein, donc il a montré à tout le monde que dans le jeu roi du stick arcade, il pouvait démonter les gens. Donc,
un personnage cheaté.
Mais on va dire que globalement, c'est un peu le personnage des pauvres. Mais non, mais que globalement, c'est vrai qu'on l'a pensé comme ça. Et puis aussi pour donner un exemple des difficultés qu'on a eues sur les niveaux de difficulté, des grandes décisions qu'on a prises même à la fin, c'était dans le mode easy de donner un contre automatique. On peut laisser appuyer sur le bouton et il n'y a plus besoin de taper au moment de l'impact en avant.
Ce qui change énormément.
C'est radical comme changement de gameplay, c'est radical. Ça a été des longues discussions pour savoir si on le faisait ou pas, et des tests bien sûr.
Mais ça implique que si vous jouez en easy, vous pouvez faire un score plus bas. Enfin, vous pouvez augmenter votre multiplicateur de score, qui sont tout des choses en fait, qui sont des décisions qui sont assez évidentes en fait au final dans le shoot 'em up. C'est vraiment des choses, puisqu'on a une pratique assez grande pour le coup du genre. C'est des idées qui viennent relativement vite.
Mais
c'est des propositions qui viennent assez vite.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est des choses qui viennent pas forcément. Que j'avais pas forcément vu dans le shoot 'em up.
Ouais.
Par exemple, cette idée-là, moi, elle me fait penser à celle de Bayonetta aussi, où il y a ce
bien
bouton
sûr,
quand
ouais.
facile, où
on peut laisser appuyer,
on peut appuyer, puis elle enchaîne des tas de trucs,
ouais, ouais.
que je trouve plutôt une bonne idée pour les gens qui ont juste envie de voyager dans le jeu, mais des choses que j'avais pas vu appliquer.
Dans le jeu de baston, qu'ils ont aussi mis dans le Persona, voilà, exactement. Ouais. C'est Arc System Works qui a mis ça dans.
Oui, effectivement.
Dans le Persona, le jeu de baston.
Où il y a un enchaînement de base.
On a un enchaînement de base. Il suffit juste d'appuyer sur le même bouton, en fait, non-stop. Et ça sort même, pour le coup, une super à la fin, si on a sa barre de super pleine. Et puis, alors, outre le fait qu'on n'avait pas de gens, enfin, qu'on avait un pool très, très petit, en fait, de gens à qui on pouvait faire tester le jeu, puis vraiment avoir une idée de sa difficulté. Le deuxième problème réel, c'est que, c'est, une fois que vous faites un jeu comme ça, il y a un moment, il faut accepter le fait que faut plus du tout prendre en compte votre manière de jouer. Enfin, moi, c'était plus possible lorsqu'on faisait le level design avec Nicolas, puis que moi, genre, je testais le level, je pouvais juste à la limite dire, ok, c'est sympa comme les ennemis arrivent, mais autre, mais on perd tout possibilité de se prononcer là-dessus, parce qu'on sait où les ennemis arrivent, on sait comment les battre, dans quel rythme, parce qu'on l'a pensé. Donc de toute façon, ça rappelle un peu ces débuts effectivement du jeu vidéo, en tout cas sur console, où les jeux étaient d'une difficulté aberrante, parce que les seuls qui les testaient, c'était les gens qui les faisaient. et là, c'était
ou complètement
trop
facile.
Ou complètement
trop facile,
parce que personne ne les testait.
Parce qu'il n'y avait pas de bêta-testeur, quoi, donc...
Et donc, on avait effectivement cette espèce de situation double. Et c'est vrai que jusqu'à la sortie du jeu et qu'on ait des retours de schmuppers, donc de gros joueurs de shoot, qui nous font des remarques par rapport à la difficulté. Parce qu'on avait aussi le challenge d'essayer aussi de faire un jeu quand même qui est accessible. Enfin, pas non plus de faire le jeu qui te massacre tout de suite. Donc, on a essayé de faire aussi un premier stage qui est un peu plus accueillant et autres. Mais c'est vrai que la difficulté réelle, c'est qu'on avait peu de gens sous la main pour vraiment évaluer en fait évaluer ces difficultés. C'est vrai que nous, si on fait tester un jeu, on aime bien aussi regarder les gens y jouer, enfin voir leurs réactions. Comme c'est des jeux qui demandent aussi les shoot'em up de mourir quand même assez souvent, enfin d'avoir de la ténacité, c'est aussi très important de regarder si la personne elle redémarre tout de suite, si elle a envie d'aller plus loin, ou si elle a l'impression d'être morte de manière complètement scandaleuse parce que le jeu est trop dur et autre. Donc de trouver ce juste milieu, c'est pour le coup, c'est effectivement
sans testeur, c'est difficile.
Ouais. Sans testeur, mais d'autant plus il faut en plus un testeur qu'on soit capable d'observer en fait, d'observer réellement.
Et puis un testeur frais, enfin j'entends.
C'est comme le poisson, quoi.
Voilà,
sinon,
exactement. Non, mais à partir du moment où on l'a fait tester à quelqu'un, on peut plus vraiment le refaire tester ou pour les mêmes choses, parce que voilà.
Il a déjà une connaissance du jeu qui fausse tout, ouais. Ok. D'ailleurs, il y a un autre point. On parlait des points que vous avez que moi j'ai pas vu dans le shoot. Il y a aussi quelque chose où vous mettez un accent quand même relativement grand sur l'histoire. On a même vu quand on vous a demandé le jeu, qu'est-ce que c'était comme jeu, vous avez beaucoup parlé de quoi traitait le jeu avant forcément de parler du fonctionnement de gameplay, alors que le shoot 'em up est très connu des fois pour balancer à peu près n'importe quoi comme histoire prétexte ridicule et puis juste le fonctionnement mécanique qui est pourquoi cette envie, quelle était le, derrière le, la motivation?
Alors en tout cas, de mon côté, une des envies très fortes, c'est que j'avais vraiment un amour des IS, justement, de ces jeux, jeux action RPG japonais, où, ce qui était bourré de dialogue à une époque où voilà, c'était un peu le début des jeux sur CD-ROM, etc. Et j'adorais ces dialogues avec en fait un dessin, une image du personnage. Je trouvais ça fantastique. Et le simple fait de voir refaire simplement une interface de dessin et de dialogue comme ça, d'un point de vue, je dis, purement visuel, c'était déjà rien que ça.
Ouais, c'était quelque chose que je voulais faire.
Après, je pense, David.
Alors après, bon, si on revient, disons, un petit peu plus loin par rapport au quid de l'écriture du scénario du jeu, la première idée, avant d'en arriver à cet univers un peu, cet univers complètement japonais, la première idée, c'était d'adapter en fait l'épique de Gilgamesh, qui est un épique de l'ancienne Mésopotamie, qui est un récit fragmentaire qui nous inspirait énormément, puisqu'il est, il a, je pense, en tout cas à ma connaissance, il a jamais été illustré dans le monde du jeu vidéo. Et puis on trouvait que justement ce récit fragmentaire correspondait très bien à l'idée du shoot 'em up, puisqu'on a 5 stages ou 4 stages, puis qu'on peut vraiment décider de moments un peu précis. Après, ma foi, c'est vrai que c'était un petit peu ambitieux. Ça demandait énormément aux dessinateurs. Et le choix plutôt intéressant, c'est que très naturellement, ça s'est dirigé vers un univers beaucoup plus japonais, parce que justement, les deux dessinateurs, Seiko et Mathieu, ils avaient beaucoup plus en fait dans la main, quoi. Ils dessinaient de manière beaucoup plus naturelle en fait des personnages japonais, des univers japonais, parce qu'ils en avaient déjà dessiné des dizaines et des dizaines. Donc nous, ça nous permettait bien sûr de travailler beaucoup plus vite, parce que alors il y avait un travail assez conséquent en termes d'ennemis, de décors et autres. Après, comment le scénario est venu? Alors, ce qui est, je dois avouer, particulièrement intéressant pour moi quand je l'ai écrit, c'est que ma contrainte, c'était une contrainte assez jusqu'au boutiste, c'était de l'écrire d'abord en japonais et après de le traduire du japonais à l'anglais et du japonais au français.
Ah ouais.
Donc, ça demande un peu de se... Voilà, ça demande un peu de se triturer les méninges. Ça crée par exemple des problèmes assez rigolos, parce que tout à coup, ben forcément, sans faire exprès, on commence à réutiliser. Enfin, en tout cas, moi, je commence à réutiliser des formules que j'ai souvent entendues dans les dessins animés japonais. Ou enfin voilà quoi. Tout à coup, on commence à partir dans une écriture qui est vraiment en fait en elle-même très très influencée quoi. C'est-à-dire,
ce qui est marrant, c'est qu'aussi ça demande de pouvoir. Ce qui est pas, faut avoir une certaine maîtrise de la langue quand même pour réussir à directement penser un texte dans la langue, parce que ça, faut, voilà, je sais pas, du coup, combien d'années, enfin, de maîtrise de japonais tu as pour pouvoir, enfin, c'est pas rien, enfin, je trouve assez impressionnant.
Ouais, alors, effectivement, ça demandait de la prétention, disons, ça demandait, je pense, voilà, il faut quand même se dire. Allez, c'est parti, j'essaye. C'est un univers un peu japonais. Ça va venir plus facilement, et à mon avis, en fait, c'est assez vrai, en japonais d'abord, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de formules qui viennent plus rapidement. Ça donne après un espèce de patchwork, comme j'ai dit, un peu de répliques, de films et autres. J'ai deux, trois amis qui maîtrisent aussi le japonais, qui m'ont pas mal corrigé, notamment sur des problèmes de niveau de langage et autres. Enfin, comme j'avais un espèce de patchwork de beaucoup de phrases différentes, d'expressions différentes, d'essayer de bien cadrer qui parle et autres. Et après, étonnamment, en fait, la traduction anglaise et la traduction française étaient beaucoup plus difficiles en fait que l'écriture en japonais, parce que effectivement, tout à coup, il faut trouver des équivalences. On travaille beaucoup effectivement sur. C'était un texte aussi qui faisait beaucoup appel à des idées un peu ésotériques, rapport justement. On en a un tout petit peu parlé. Au bouddhisme, au shintoïsme, enfin, à différentes figures et autres. Puis tout à coup, sans trop trahir un peu les références, on voulait essayer de trouver justement une traduction assez juste. Puis il a pas mal fallu y revenir.
Puis ce qui est amusant, c'est que ça, du coup, le processus d'écriture rappelle le processus de dessin.
Voilà,
dans
exactement.
Le sens où, justement, parce que plus naturellement je dessine ce type d'univers, c'est exactement si je devais traduire mes dessins dans un univers occidental, j'aurais à peu près le même problème.
Bon, alors moi, du coup, naturellement, j'ai envie de demander à Nicolas s'il a codé en japonais.
Non, j'ai pas codé en japonais.
Ah non, par alors, contre, non, par mais contre, c'est quoi ce jeu?
Assumer jusqu'au bout.
Par
quoi,
contre, pour le, non, non, mais pour ceci dit, pour le système de boulettes, je me suis inspiré en fait de travail qui a été fait par un japonais pour faire du Nanmaku.
Ok.
Qui marchait pas avec ce qu'on faisait, donc j'ai pas.
Alors peut-être pour juste un mot, parce qu'effectivement on n'arrête pas de parler d'Anmaku et tout comme ça.
Ouais,
je voulais juste préciser le Danmaku, c'est l'idée de ces shoots où il y a des rideaux de balles et au final ça inverse un peu le principe du shoot normal, c'est-à-dire qu'à la place de viser des ennemis, on évite les tirs des ennemis et tirer est moins important. En fait, de viser l'ennemi où il est moins important que d'éviter les boulettes. Voilà. C'est un petit peu salide.
C'est le Danmaku.
Voilà. Voilà. C'est le Danmaku. Oui. Voilà.
Et donc, dans le code, il y a quand même, au sein du code, des influences japonaises.
Exactement, ouais. Et d'ailleurs, moi aussi, pour faire les patterns de boulettes, donc les déploiements des boulettes, les formes qu'elles tracent, on a aussi utilisé ce système. Mais qui me permettait, alors ça tu l'as pas précisé Nicolas, qui me permettait directement de voir en fait avant même qu'on le mette in-game, donc dans le jeu, je pouvais déjà, parce que moi j'ai jamais fait de code, donc tout à coup j'ai dû faire du code pour aider un petit peu Nicolas, donc en fait il a mis en place en fait pour les gens qui font du shoot 'em up un système qui permet tout de suite en fait de faire des copier-coller de différentes parties de code et de tout de suite voir quels sont les patterns, forme, la forme des tirs qu'on fait, okay. Et surtout tout de suite voir si on fait une erreur, quoi. Donc ça me permettait après, de moi, un peu codeur en herbe, complètement nul, de quand même avoir le plaisir de me dire, ce déploiement de balles, c'est moi qui l'ai fait, et je faisais un copier-coller, je l'envoyais à Nicolas, et puis lui, il pouvait directement le mettre dans le jeu, puis on regardait dans le jeu comment ça marchait.
D'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Matt au début par rapport à l'aspect visuel des dialogues, il y a des espèces de blades, donc c'est cases de dessin qui apparaissent avec les visages des protagonistes qui parlent. Ça, c'est directement hérité de ce qu'on avait fait sur RPG Maker il y a à peu près 10 ans.
Waouh! Comme quoi, même les petits projets servent à quelque chose.
Ah oui, non, alors moi je conseille aux gens.
Construire dessus.
Ah oui, non, commencer le plus modestement possible, mais toujours en s'amusant, en riant, enfin voilà, jamais.
On a
jamais
vraiment été modeste.
Voilà. Non, mais jamais perdre de vue le plaisir, disons. Jamais vraiment.
Ça c'est vraiment, mais c'est important parce que c'est vraiment un des mots d'ordre, je trouve, de notre studio. C'est vraiment le plaisir. Le but, c'est de se faire plaisir.
Ok.
Avant toute chose.
Donner du plaisir aux gens qui jouent à votre jeu.
Ça beaucoup moins parce qu'on est très égoïste. Non, mais
et d'ailleurs on en parlera tout.
Non mais c'est vrai que justement de passer de ce projet Gilgamesh à Nandeyanen, c'est un des trucs, c'est que dessiner Gilgamesh devenait un effort et plus un plaisir. Et vu qu'on a tous des boulots à côté, ça doit être du plaisir. Et puis voilà.
En parlant de plaisir, si on imagine que je suis la fée du plaisir et que j'ai une baguette magique.
Je t'imagine en fait du plaisir.
C'est pas ce que immonde. Je voulais dire. C'est mal amené.
Je pense que l'illustration qu'on pourrait mettre pour ce podcast, c'est toi, on fait du plaisir.
Okay. Bon, on va essayer de trouver ça, chouette. Je peux agiter ma petite baguette magique et puis que juste. Si vous pouvez changer une seule chose au jeu, là directement, tout de suite, d'un coup de baguette magique.
Le premier
qu'est-ce
boss.
Que vous changeriez
Le premier boss,
il est vraiment moche.
T'es salaud. Non, mais c'est vrai, je suis pas du tout content de ce design, mais c'est du gros boulot et puis je pouvais pas le reprendre. Okay. Mais c'est, en tout cas, moi, c'est le premier boss. Voilà. Le deuxième souhait que j'aurais si j'enlève le premier boss, si on dit tous un autre souhait, ça serait de pouvoir faire des boss plus gros en plus de parties.
Ok.
Voilà, ça c'est un autre truc qui dépend du code justement.
Et puis bon, mais la liste est longue, hein, parce qu'on a une longue liste de choses qu'on a envie de rajouter. Mais t'as qu'une baguette magique. Bon, alors moi mon vœu, ce serait les doublages. On a pas eu le temps de faire les doublages, on avait prévu.
On a des doublages secrets
qui sont uniquement faits par moi à 3h du matin après trop de café, qui étaient très drôles au bout d'un moment, mais qu'on a effectivement enlevé. Et puis un court moment, Mathieu a proposé qu'on fasse une introduction en dessin animé avec une chanson en japonais. L'idée a vite été mise de côté, mais on garde ça dans notre cœur. Peut-être quand on aura 8 ans.
Donc s'il y a une chanteuse qui...
Voilà, s'il y a une chanteuse qui nous écoute, si elle sait chanter en japonais, de la J-pop.
Ok.
Ok, pour le coin du jeu, c'est fait.
Ouais.
Ah, du coup, on va passer au coin du chalet.
Au coin du chalet, passons.
Au coin du chalet.
Entrez.
Le coin du chalet. On a bien compris que vous avez un gros intérêt pour tout ce qui est
la chose japonaise,
toute la culture. Mais du coup, est-ce que ça vous a traversé l'esprit, peut-être, à un moment donné, sait-on jamais, de vouloir poser le truc dans un cadre un peu plus local ? Est-ce que ça vous aurait fait triper ou pas du tout ?
C'est moi qui vais ? Ok. Alors, le cadre local, on l'a énormément de niveaux. Et puis, en fait, c'est vraiment notre passion réelle. C'est pas pour rien qu'on a décidé de s'appeler Chagata Games, en référence à des figures suisses, les Chagete, qui sont des figures valaisannes du Liechtenthal, qui représentent pour nous en fait aussi cette forme de créativité suisse, d'imaginaire primitif, qui ont été un peu, qui ont pris un peu la poussière, qu'il faudrait peut-être un peu remettre au goût du jour. Donc le nom du studio témoigne de cette envie effectivement de retour à des espaces imaginaires beaucoup plus suisses. Et puis c'est vrai que à bien des niveaux, il y a des petits micro-combats qui se mettent en place, ou plus aussi en termes professionnels, où non seulement moi qui travaille à l'université sur un sujet autour du jeu vidéo, Mathieu qui a organisé un grand colloque international à l'université de Lausanne aussi autour du jeu vidéo. Donc on essaye aussi pour le coup de convier les deux à travers notre vision, une recherche en termes de créativité locale. Et puis le dernier élément qui est très très important pour nous, qui a été central à Nandeyanen, c'est le fait qu'on ait eu l'opportunité, la grande chance d'être exposé dans un musée en Suisse. Qui nous a mis en contact. Ça, pour le coup, maintenant, je pense qu'on peut vraiment le dire, c'est que les joueurs principaux, en fait, on n'y est pas vraiment revenu, mais la première itération, la première forme de Nandeyanen, le jeu est sorti sur le Xbox Live Indie Games Marketplace, le EXBLIG, qui est une plateforme de distribution sur Xbox 360, mais qui n'existe pas en Suisse. Et donc, ce qui faisait que dès le début, en fait, dès le choix du moteur sur lequel on a développé le jeu, qui est Xena, on savait qu'on n'allait pas pouvoir en faire profiter à nos amis suisses et à la communauté suisse qui, à l'époque où on a démarré le projet, était encore vraiment à l'état un peu d'embryon. Maintenant, les choses sont en train de changer plutôt rapidement. Enfin, je pense qu'on en parlera peut-être après. Mais voilà, donc... L'opportunité que nous a donné le musée d'ethnographie de Neuchâtel dans une exposition qui s'appelle Imagine Japan. Pendant un an, Nandeyanen appartient à l'exposition. Donc, c'est pas du tout une exposition qui traite des jeux vidéo. C'est juste que notre jeu vidéo propose une forme de créativité suisse à travers un imaginaire japonais, qui est la thématique donc notamment de l'exposition. Et on a la chance d'avoir une jeu qui a été dans cet espace, dans ce musée, disponible à des classes, on a vu des personnes âgées, donc on a mis à disposition un stick arcade, on a vu des personnes âgées, c'est égal, on a vu des gens de tout âge, des mères avec leurs enfants, des groupes d'enfants, des couples et autres, se saisir du stick arcade et puis essayer de jouer à notre jeu, qui est une chance absolument unique, parce que tout à coup, en fait, le choix nous est revenu dessus, puisqu'on on a décidé de faire un jeu qui en lui-même, au final, très inhospitalier pour le public suisse, parce que originellement japonais, d'un genre que les Suisses jouent très peu, et finalement, une des plateformes principales où le jeu est disponible, c'est un musée suisse, et donc ce qui fait qu'en fait un des publics principaux du jeu, c'est les Suisses. Donc ça nous a fait énormément plaisir de voir ce retour. Et puis après, pour répondre peut-être plus précisément à la question, on a énormément de projets et d'idées et d'envies qui vont dans la direction des espaces imaginaires suisses.
Puis à plusieurs niveaux, parce qu'il y a type de projet Samane que vous pouvez voir sur notre site, un jeu de cartes qui tourne autour d'un univers alpin, je dirais même, mais suisse. Mais aussi, pour poursuivre sur Nandeyanen, il y a aussi un intérêt de comparaison aussi de ces folklores, de paysages justement montagneux qui inspirent un certain nombre de figures, où on peut tracer en tout cas un certain nombre de parallèles. Puis ça nous amuse beaucoup. On avait un peu des petits projets, quoi, de même que les univers se rencontrent, mais de manière très concrète.
On avait comme idée à un moment de faire deux stages qui se passent en Suisse. Ouais, on avait, bon, malheureusement, pour l'instant, on est parti sur autre chose, mais il y a vraiment la très forte envie. Un jour de reprendre la structure du jeu et de faire des nouveaux stages, mais qui cette fois sont en Suisse avec des ennemis suisses, une sorte de petit chapitre annexe où tout à coup Tenguman, notre personnage principal, débarque en Suisse. Mais voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent au final assez bien. Enfin, on l'imagine bien faire de la lutte suisse à la culotte, faire je sais pas moi du hornous par exemple. Je sais pas si ça c'est un sport bernois qui ressemble un peu au baseball et autres. Enfin, des espèces de visuels, tout à coup on peut réimaginer ce perso qui visite un peu la Suisse puis qui redécouvre par-ci par-là deux trois aspects. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui nous plaisent énormément en fait.
Ok.
En essayant toujours à tout prix de pas tomber dans un aspect un peu trop kitsch, disons, justement un peu trop poussiéreux, puis à chaque fois de se donner un peu la peine d'essayer de trouver un peu de punch. Puis ça vient aussi beaucoup, par exemple, je sais pas pourquoi ce jeu me revient toujours en tête, mais j'ai toujours été très impressionné par exemple de trouver au Japon sur PSP un jeu qui s'appelle Jeanne d'Arc, puis qui raconte l'histoire de Jeanne d'Arc.
Exactement, ouais,
c'est complètement fascinant de se dire, ben voilà, bon alors peut-être c'est qu'ils produisent tellement de jeux qu'ils ont besoin à chaque fois de tomber sur des nouvelles histoires, mais n'empêche qu'ils se donnent vraiment la peine de réinterpréter la plupart des personnages historiques, de réécrire l'histoire de Jeanne d'Arc, de tout repenser visuellement et autres. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Puis on se dit, bah, mais...
Les Chagata, au point de vue vidéoludique, vous les trouvez dans Persona, quoi.
Voilà, c'est son Japon,
quoi.
Ok. Le seul endroit où il y a des Chagata.
Où il y a des Chagata, c'est un jeu japonais, quoi.
Ok. Alors c'est marrant, je savais pas du tout. Je vois même pas quel personnage c'est dans Persona. Pourquoi.
C'est des ennemis dans Persona 2, je crois.
Ah, le 2, ouais, j'ai pas fait le 2.
C'est dans Shin Megami Tensei. Ah, pardon. Attention, il faut bien séparer. Pour être plus précis, c'est Shin Megami Tensei, en fait.
Ok, d'accord.
Et on a toujours été très impressionnés aussi de voir que dans la série des Guilty Gear, il y a 3 Suisses.
Il y a 3 Suisses.
Voilà. Il y a 3 personnages suisses.
Cliff, ils sont suisses. Le troisième,
c'est Kai Kiske qui a une mère suisse.
C'est magique.
C'est juste génial.
Il y a quand même des
merci Ishiwatari.
Il y a des mecs qui ont lu les fiches de bio des persos. Moi, le truc que personne lit.
Non, mais quand tu tombes sur Testament, le boss du premier.
Ouais, je vois tout à fait.
Et puis tu vois qu'il a le drapeau suisse à côté de son nom. Tout à coup, tu te dis, faut que j'aille voir les autres. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu vois que le maître de Kai Kiske, qui est français, il est suisse aussi. Puis c'est un tueur de dragons dans les montagnes. Le jeu prend tout à coup une autre tournure.
Une autre ampleur. du coup, tant qu'on est dans le sujet, hein, et puis t'en as un petit peu parlé sur la question à laquelle tu viens de répondre, est-ce que pour vous, la scène suisse de développement est importante? Qu'est-ce que ça joue comme rôle pour votre équipe?
Ça, je pense, on a tous en fait un avis différent. Je pense vraiment, répondre chacun son tour pour le coup, mais on a tous un positionnement différent. On a aussi une expérience différente de cette scène suisse. Un point, justement, j'en parlais très rapidement avant. Un des points d'entrée qu'on a principalement avec Mathieu, c'est l'espace universitaire, d'abord l'espace académique, et puis après, en parallèle, notre expérience autour du jeu qui nous a permis aussi de rencontrer d'autres développeurs. Mais il y a un moment qui est assez important, c'est que, en tout cas moi et Mathieu, en 2012, on nous a demandé d'écrire une entrée encyclopédique dans un livre pour le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, le très célèbre, qui donc était une entrée encyclopédique qui traite donc de l'histoire du jeu vidéo en Suisse.
Donc l'article, c'est Video Games, c'est l'article Switzerland. Quoi,
voilà, c'est l'entrée Switzerland.
Video Games Around the World.
Dans une encyclopédie qui va bientôt être publiée là autour. Et donc, en 2012, on a dû se gratter la tête pour essayer de voir ce qu'on avait. On s'est dit qu'on avait 10 pages, que ça n'allait pas vraiment suffire. Puis quand même, on a un petit peu ramé pour essayer de trouver des événements importants. Puis en revenant sur ce moment d'écriture, et puis en pensant maintenant actuellement à le trajet qui a été parcouru entre 2012 et 2014, pour moi, c'est absolument indéniable que le trajet est incroyable. Que en l'espace de 2 ans, l'évolution, le nombre de nouvelles choses qui sont intervenues à l'échelle suisse et surtout d'où on vient, quand on voit ce qu'on avait à disposition, ce dont on pouvait parler, ce sur quoi on pouvait écrire en 2012, et qu'on voit ce qu'on a à l'heure actuelle à disposition en 2014, c'est ça, pour moi, ça présage plutôt beaucoup de choses très intéressantes, mais en restant toujours avec une forme de modestie, c'est-à-dire en se rendant compte que, ben, ma foi, d'une manière ou d'une autre, le pouvoir politique suisse a raté le coche. Donc, il y a des décisions qui n'ont pas été prises assez vite, notamment par rapport aux technologies, au matériel digital et autres. Donc, ça devient.
Il y a l'encouragement financier.
Voilà, l'encouragement.
Il y avait des cantons, il y avait Genève.
L'encouragement financier.
Il y a raté quelque chose avec Ubisoft. Enfin, voilà.
Il y a eu énormément de projets qui sont faits, deux, trois choses qui sont arrivées par-ci, par-là, mais ça a été difficile de pérenniser. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que le travail que fait en partie pour Helvetia, disons, a aidé à. Disons, on est passé d'un moment où c'était très difficile de parler d'une scène vidéoludique suisse à un moment où maintenant, moi, je peux, sans trop de honte, montrer mon téléphone portable à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ou n'importe quoi d'autre, puis vraiment lui sortir une liste de jeux qui existent, qui sont jouables, qui sont sortis sur différentes plateformes, qui ont tous, ben, ma foi, des qualités différentes et aussi des défauts différents, mais au moins quelque chose existe. Quelque chose se passe, il y a une dynamique, il y a des gens qui se rencontrent en Suisse romande et aussi en Suisse allemande. Donc, je dois dire par rapport à ça, là, de nouveau, en tout cas, nous, on a pas mal de chance, on ne s'est pas du tout rendu compte de ce timing, mais on a pas mal de chance d'être arrivé avec Nande Yannen au moment où les choses aussi s'engagent là-dedans, ce qui nous permet de rencontrer énormément de monde. On a l'impression... Il y a cette énergie pionnière, disons. Tout est à faire par rapport à ça. Il ne faut pas non plus, trop
rentrer. Le problème, c'est qu'on dépend de la politique, des moyens économiques, qui, je dis à l'échelle de la Suisse, hein, pas nous de Chagata, mais je veux dire, il faut se rendre compte qu'une industrie, elle dépend profondément de ça. Donc voilà.
Mais pour toi, Mathieu, est-ce que pour toi, cette scène, elle est importante ou au final, tu es à côté? Est-ce que tu as le même avis David,
alors, je partage complètement ce qu'il dit, entre autres l'épisode de l'article, hein, parce que ce que tu dis pas aussi, c'est que c'est très frustrant, mais c'est justement témoin du bon qu'a fait cette scène suisse. C'est qu'un article universitaire, des fois, ça met 2 ans à être à sortir. Et puis voilà, puis nous, on l'a écrit il y a 2 ans, le bouquin n'est pas encore sorti, donc c'est pas du tout up to date. Et c'est dire que ça a justement qu'il y a eu un bond en avant. Enfin, si souvent avec David, on s'est plaint de ça, on a dit, mais il faut qu'il le sorte parce que ça a plus de sens.
Sinon, il serait ridicule. Ouais.
Si on écrivait l'article maintenant, on n'aurait plus besoin de 10 pages, on en aurait besoin de 15, 20. Enfin, mm-hmm. Il y a facile le double de pages qui serait nécessaire pour parler de tous les différents jeux, les différents espaces de formation. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup de niveaux. C'est des espaces de formation qui se créent. Voilà, entendons-nous sans non plus commencer à monter et puis à dire c'est incroyable, c'est merveilleux. Mais il faut quand même l'avouer pour dire qu'on a un pays qui réagit lentement, qui a un système politique qui engage les choses lentement, qui a aussi un système académique qui met très longtemps à mettre en place.
Puis un rapport à l'industrie du divertissement aussi.
On n'a pas, comme la France, effectivement, des pionniers qui ont déjà mis en place une forme d'âge d'or du jeu vidéo français. Tout est à bâtir, mais il y a plein de choses très belles humainement aussi. Il y a des rencontres. Comme on est un petit espace, on peut avoir accès à aller voir à Zurich. Les Zurichois peuvent aussi venir. On discute entre Genevois, Fribourgeois. Enfin, les échanges d'idées se passent. Ce qui manque énormément à l'heure actuelle, à mon avis, qu'on a très peu, c'est des producteurs. Ça, on est tous à peu près d'accord pour le dire quand on discute entre développeurs de jeux vidéo, c'est qu'on a très peu de gens en fait qui sont réellement capables de prendre la peine de gérer tout l'aspect, aller faire de la recherche de fonds, aller contacter des gens, gérer la promotion, enfin voilà, être un peu le papa du projet. Et on a beaucoup de créatifs, mais il nous manque encore énormément ça. J'ai l'impression. Et puis après, bon, bah, bien sûr, il ne faut pas non plus trop être prétentieux. On n'a pas encore des jeux qui sont absolument géniaux. Enfin, on n'a pas encore
tout
à coup...
Ils ne sont pas encore tous au niveau international.
Voilà, on ne tombe pas... Enfin, voilà, on fait pour l'instant. Mais en final, c'est comme tout. On se construit petit à petit. On apprend à se construire. On échange du savoir-faire. Des fois, il y a des erreurs grossières qui sont faites. Nous aussi, dans notre processus créatif de Nande Yannen, tout à coup, on s'est rendu compte de certains éléments. notamment à partir de où partait le tir par rapport à la zone où on est touchable. Ça faisait 2 à 3 ans que c'était comme ça, et c'est certainement l'erreur du béaba la plus importante des shoot 'em up, et on était complètement tous aveugles. Donc de tout à coup d'avoir des gens aussi de l'extérieur, d'autres développeurs qui sont capables de nous
la scène internationale du coup qui nous l'avait fait remarquer.
Ouais, exactement. Ça,
c'était les communautés de shmupper.
Voilà, ça c'était les
après,
communautés de...
pour finir sur un peu l'équipe et le sentiment par rapport à la scène suisse, bah justement, je suis bien sûr en ce que dit David, d'un point de vue intellectuel, dans le ressenti, ça peut être très différent. Moi, simplement par obligation familiale, etc., par exemple, je peux moins participer aux rencontres, etc. Donc évidemment, je suis plus distant de cette scène, mais naturellement, parce que voilà, je peux moins m'y inscrire. Puis après, ben voilà, je m'occupe du visuel. J'ai une influence visuelle qui est principalement japonaise, qui fait que, ben voilà. Mais c'est justement, ça répond à la question d'un point de vue personnel. D'ailleurs, personnellement, ça me parle généralement moins. Par contre, David me montre quand même pas mal de trucs et je trouve qu'il y a des excellentes idées de jeu. Enfin, voilà. Puis après, ben, ça dépend un peu de nos spécificités.
Ok, Nicolas ?
Oui, moi, sur un plan peut-être plus personnel, ce qui était très intéressant, c'est avec tous ces gens qu'on peut rencontrer en fait par ces regroupements qui se créent, c'est tout l'échange de connaissances et pas uniquement purement technique, mais justement comme disait David, aussi challenger des idées de game design ou des idées qui peuvent paraître toutes simples en fait, ces gens justement prennent le temps pour un échange. C'est des choses qui sont difficiles à faire online ou qui demandent des réponses un peu du tac au tac. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Et puis, peut-être pour moi qui aimerais, dans un rêve, en vivre du jeu vidéo, du développement, c'est tout des bonnes nouvelles, en fait, qui se passent autour de choses. Les espoirs dans l'immédiat sont assez réduits, assez minces. Ben, comme l'expliquaient David et Mathieu, enfin, il y a des raisons politiques et économiques derrière qui sont importantes. C'est avant qu'elles changent, il y aura probablement peu d'opportunités, à moins justement de faire comme font la plupart, c'est-à-dire de créer ça ou leur structure à côté d'un travail alimentaire.
Moi, je rajoute encore vite une chose maintenant que j'y pense, parce que je pense que c'est une des choses les plus belles que j'ai vues ces derniers temps, dans les 6 derniers mois. C'est quelque chose de réel qui se passe dans ces rassemblements de développeurs, c'est qu'en fait, le fait d'avoir ces espaces de rencontre à disposition, en fait, ça crée une forme de pression positive en fait sur tous les gens qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui viennent, qui se disent « un jour, j'aimerais bien faire quelque chose », puis qui voient les gens qui se présentent sur leurs différents téléphones portables ou sur leur ordinateur, les choses sur lesquelles ils sont en train de bosser, les choses qu'ils sont en train de travailler. Et puis, on voit tout à coup en fait que les gens, ils commencent à ressentir ça en eux, ce truc de se dire « ben voilà, je suis entouré de 10-15 autres personnes qui sont aussi en train de se lancer ». Et les types, ils rentrent chez eux le soir, tac, ils se mettent à dessiner, ils se mettent à coder, puis ils reviennent le mois d'après ou 2 mois après, discrètement dans un coin parce qu'ils n'osent pas encore trop le montrer. Ils viennent vers vous entre 2 bières, ils vous montrent vite un petit jeu, ils essayent d'avoir un peu votre avis et autres. Puis ça se construit petit à petit comme ça, mais ça se construit aussi sous une forme de... Ben voilà, c'est ce que j'ai appelé de la pression positive, c'est-à-dire qu'on se met là... On a envie, tout à coup, ben, comme on se connaît en fait parmi, ben, on a envie de voir les réactions des autres, mais on a aussi envie de faire partie de ces gens qui se montrent un peu ce qu'ils font en fait.
Moi, c'est un sentiment que j'avais eu, du coup, vu que je peux moins aller aux rencontres, mais c'était ben, l'Epic Game Jam justement, et là, il y en a une, il y a la globale qui arrive, et je me réjouis justement, parce que du coup, là, c'est un moment où je peux me consacrer à ça pleinement, et là, c'est le même sentiment ultra stimulant, une émulation... ça c'est clair que c'est hyper riche, disons, c'est ma maigre expérience voilà de la communauté suisse, mais en tout cas hyper hyper positif quoi, qui nourrit vraiment plein d'énergie. Ça, je trouve vraiment hyper agréable.
On va clôturer sur ces beaux mots avant de passer à la dernière partie. Alors, donc, la question, je pense que vous la connaissez, mais on va quand même la reposer pour la forme. C'est le premier et le dernier jeu qui vous a marqué, chacun. Alors, Nicolas.
Alors, le premier, FF7. Et le dernier,
On explique qu'il y a eu un petit, petit clash sur Facebook assez rigolo où j'ai trollé son amour de FF7.
C'est que je n'ai pas mal
dit. Non,
t'as pas trollé, t'as dit des évidences, je crois.
Ouais, non, l'idée de base était de troller quand même, je dois admettre. Et donc, vas-y, FF7.
Tu veux que je développe la
Le premier et le dernier.
Ouais, j'ai dit les deux.
Ah, excuse-moi, ouais. J'étais tellement
L'an
concentré
dernier,
sur FF7.
T'avais pas suivi, c'est FF7.
Peut-être le gars, mais absolu, quoi. C'est beau, c'est beau.
Non, si tu veux que je développe un petit peu là-dessus, c'est... Alors, c'est clairement un jeu qui a marqué un tournant dans ma vie parce que je l'ai vécu hyper fort. C'était vraiment incroyable comme expérience. Et... Que dire de plus ? Non, c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais je pense que pour chacun d'entre nous, il y a vraiment celui qui est déclencheur. Pour moi, c'est tombé sur FF7 parce que j'avais l'âge pour. Et puis,
c'était le bon moment, c'était tout
le bon moment.
Tout,
ouais, exactement. Et puis, c'est devenu une expérience émotionnelle incroyable qui n'a jamais été dépassée depuis.
Ok.
Voilà.
Mathieu ?
Le dernier, c'est facile, puis le premier, c'est hyper difficile.
Bah, on commence par le dernier.
Le dernier, je dirais Guilty Gear X-Horde.
Ok, d'accord.
Je dirais quand même, c'était vraiment la
claque.
Vraiment la grosse claque. Okay. Une méchante claque de baston. Moi, je suis très, très Capcom, très, très street. J'adore les Guilty. Enfin, voilà, je suis très baston, en règle générale. Mais plutôt Capcom. Et là, je trouve que Arc System, ils viennent un peu...
titiller.
Un petit coup de petit revers de...
Okay, bam.
Petite claque. C'est vraiment très, très méchant. C'est aussi bon au gameplay qu'à la réalisation. Il y a tout ce qu'on aime dans Guilty. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment... Enfin, là, je joue à ça depuis une semaine. J'arrête pas, quoi. Quand je suis pas devant ma télé, c'est sur ma PS Vita en remote, quoi. Donc, quand même, là, je vais dire, comme dernier jeu, ça va être ça. Puis le premier, c'est...
On remarque tous, c'est un bourgeois, hein, parce que Neo Geo, il parle. Après, il parle de sa PS4 avec la PS Vita en remote. On parle pas à n'importe qui, hein.
Non. Non, mais Oh là là, mais le premier, on en parlait avant avec David, voilà, qui me ressort 3 ou 4 titres dont je lui ai parlé il y a 20 ans, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est hyper dur. Je vais dire Street Fighter 2, parce que dans une expérience un peu ethnologique d'interview qu'on avait fait avec un ami d'université où on interviewait des gens, on s'était soumis à une interview de parler d'un jeu, et je pensais pas du tout parler de Street Fighter 2. Puis en réécoutant l'interview pendant 50 minutes, je parle de Street Fighter 2 en arcade, de mon expérience de Street Fighter 2 en arcade. Donc, je veux dire, c'est une grosse découverte. Okay. Et puis, c'était vraiment un monde, un type de jeu. Puis c'était quand même l'arcade, pour moi, c'est quelque chose vraiment de très particulier. J'ai vraiment un rapport très particulier à l'arcade qui vient quand même de Street 2. Mais après, c'est sûr, t'as raison, c'est Samurai Spirits, c'était la folie quand c'est sorti. Mais en même temps, avant, je parlais de Is, et puis Is, ça m'a complètement changé parce que voilà, quoi, on jouait à Zelda ici, et puis j'avais 11 ans, et puis je rentre dans un magasin, puis il y a des voix sur un jeu, des tracks à la gratte électrique. Enfin, c'était, voilà, tout à coup, il y avait un univers qui s'ouvrait. Donc voilà, premier jeu, c'est très difficile, en tout cas pour moi, de répondre.
Ok. Voilà.
Alors moi, c'est plus facile, l'autre c'est un petit peu plus difficile, puis je vais en rajouter un au milieu.
Oh le tricheur
que je vais déployer en 57 points différents.
Oh là là.
Non, alors pour le premier, c'est-à-dire
disque dur et plein. Voilà.
Mon ordi qui a craché. Alors je vous propose, on pose les micros, on laisse, on revient.
Je vais parler sur un deuxième podcast. Donnez-moi encore 2 heures. Le premier, je vais le diviser en deux. Parce que j'ai du mal à choisir. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, je dirais, ce qui me marque le plus, si je pense au jeu, plus que de penser, en fait, à mon rapport au contenu, en fait, ce qui souvent crée les souvenirs, c'est la manière dont il a été joué, comme on parlait un petit peu Nicolas, comment il a été vécu. Puis pour moi, pour le premier, j'en ai deux qui s'affrontent parce que c'est un peu deux images d'enfance. Le premier, c'est le Legend of Zelda sur Nintendo, parce que quand on est arrivé au dernier boss, c'est une image très précise que j'ai, c'était avec mon grand frère, parce que quand on est arrivé au dernier boss, on était devant Ganon, on n'avait pas encore réussi à le combattre, enfin, je crois qu'on est mort une fois, puis après on a dû aller se coucher, mais on a passé, avant d'aller se coucher, à peu près 1h30 à 2h avec mon frère à faire une stratégie vraiment très avancée pour essayer de parce qu'on était sûr qu'on était vraiment face au plus grand boss qu'on avait jamais rencontré toute notre vie, un truc absolument incroyable. Et puis la stratégie finale, après 1 à 2 heures de longues discussions, c'était de prendre les flèches de lumière et de tirer dans tous les sens. Ce qui a marché, donc on a fait n'importe quoi le lendemain. En fait, on a passé énormément de temps à réfléchir pour finalement faire n'importe quoi. Et le deuxième jeu qui m'a le plus marqué, qui est un jeu auquel j'ai pratiquement pas joué, mais quelqu'un d'autre a joué, c'est un jeu Game & Watch qui s'appelle Safe Breaker. Qui est un jeu où on joue un gardien de banque qui doit récupérer des bombes que lui jette un voleur depuis en haut. Et c'était mon père qui allait s'enfermer dans les toilettes pendant 5 à 6 heures pour jouer à cette Game & Watch. Et j'étais profondément marqué par à quel point les jeux vidéo pouvaient rendre addict et violent, en voyant notamment mon père. Non, mais en fait, le système s'est vraiment inversé, dans le sens où effectivement, j'ai eu le... C'est un jeu qui m'a montré la possibilité tout à coup d'avoir aussi des adultes, et pour le coup la Game & Watch a été très importante pour ça, hein, Game & Watch, mais beaucoup des produits Nintendo, d'avoir aussi un adulte qui lui aussi rentre dans une envie de jouer, ouais. de s'accrocher, de battre son score et autres. Donc ça m'a énormément marqué, parce que tout à coup je voyais quelqu'un d'autre, que forcément on respecte énormément, qui lui aussi rentre dans une envie de jouer. Après le jeu au milieu, je pense c'est plus pour parler en termes d'équipe, quel est le jeu qui m'a le plus marqué avec mes amis de Chagata Games. C'est un jeu de Clover qui s'appelle God Hand.
Magnifique.
Où certainement on a passé
des plus belles nuits.
Je pense que c'est une des nuits les plus magiques qu'on ait. Enfin, parler comme ça, on a presque l'impression qu'on est en train de s'embrasser sur le canapé. Mais...
c'est ce qu'on faisait, il ne le dit pas, mais c'est ce qu'on faisait.
Alors, heureuse. une des nuits les plus incroyables, parce qu'il y a eu plein de moments absolument fous. Tout à coup, c'est un jeu qui est très très difficile, hein. C'est vraiment Clover, donc c'est les actuels Platinum Games. C'est des jeux très difficiles, très exigeants, mais aussi très généreux. Et typiquement, il y a eu des moments absolument incroyables où Nicolas s'est endormi, nous on s'est énervé pendant 1h30 sur un boss qu'on n'arrivait pas à battre. On le réveille en lui donnant à la limite des claques. On lui dit bon, t'arrêtes de t'endormir maintenant, tu joues. Il prend la manette et il bat le boss du premier coup. Enfin, c'est par exemple des moments justement. Il a atteint un peu une sorte de nouveau niveau d'illumination, on sait pas quoi. Enfin, c'était que,
le
en fait,
lendemain, il
voilà,
se souvenait pas.
Une soirée remplie, en fait, de moments comme ça. Et pour ça, c'est vraiment des jeux, justement, Clover ou Platinum qui permettent ce genre de, pour moi, hein, qui permettent ce genre de merveille, parce qu'il y a une telle générosité, on sait jamais quand la fin va arriver, ils rajoutent 5 nouveaux derniers boss, et en même temps, enfin, voilà, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus marqué dans la manière dont on a joué. Et le dernier jeu qui m'a marqué, c'est aussi avec Nicolas, c'est Xenogears qu'on est en train de se faire, enfin que moi je fais pour la première fois sur PlayStation, et Nicolas a la patience, alors que c'est un jeu très long, de le faire à côté de moi, alors qu'il l'a déjà fait deux à dix fois, et qui est un jeu qui m'a absolument sidéré, parce que c'est un des rares jeux qui est un jeu en fait fragmentaire, où ils ont pas réussi à le terminer, enfin c'est un jeu beaucoup trop prétentieux, donc ça m'a un peu rappelé pour le coup notre projet, où tout à coup tout s'arrête, on a uniquement des textes qui défilent, il reste plus que la musique. Enfin, c'est absolument passionnant parce que quand une fois on a été effectivement de l'autre côté et puis que nous-mêmes on s'est donné la peine de développer un jeu, on arrive un peu à rentrer en contact avec tous ces pauvres développeurs qui tout à coup ont dû arrêter complètement leur jeu.
On n'y arrivera pas.
Voilà, on n'y arrivera pas. Et tout le deuxième CD de Xenogears, pour ceux qui connaissent pas, c'est pratiquement que du texte, avec 2-3 donjons par-ci par-là. Enfin, ils ont dû couper énormément de choses, et ça en fait un des rares jeux qui est justement fragmentaire, qui a des vides, qui a des trous, qui crée de la frustration. Enfin, c'est ce qui en a fait accessoirement un jeu culte, mais qui rend le jeu absolument passionnant, quoi.
Si on a un bonus, alors du coup, ouais. C'est Xbox Baby LYR.
Ah oui, alors c'est bon, t'as le code. C'est bon, t'as le code.
J'ai le perso
code
plus, j'ai le jeu plus. Non, c'est un jeu dont on a pas assez parlé à mon goût, et aussi que j'ai fait et avec David et avec Connie, je l'ai fait 3 fois en une semaine. C'est Asura's Wrath. Que je trouve c'est une perle, ce jeu. C'est un ovni.
On avait dit des jeux.
Voilà. Là, t'es au mauvais endroit pour parler de ce genre de
jeu. J'ai bien pensé parce qu'il a,
non, mais j'aime bien, hein.
Il
j'aime
a
bien.
Été décrié au
mais
point de
bien.
Vue des mécaniques de jeu,
bien,
etc. Mais en fait, justement, je trouve que c'est ce genre de prise de risque. C'est le jeu qu'on n'attend pas parce qu'il ressemble à moitié pas à un jeu. Mm-hmm. Et puis justement, il est génial pour ça.
Ah,
et puis
d'accord.
Je trouve que c'est un peu triste qu'on en ait si peu parlé. Puis je trouve qu'il va piocher dans un univers entre la science-fiction, enfin un peu Lord of Light, ouais, Zelazny, etc. C'est une vraie merveille.
C'est un jeu qu'explore.
C'est un jeu qu'explore, quoi.
C'est vrai qu'on aime les jeux, effectivement, qu'on prend des couilles, quoi. Enfin, on aime les jeux.
Je pense que c'est d'ailleurs un des seuls. Enfin, animé interactif ou comme toute cette vague aussi à la Walking Dead, c'est le seul que j'ai terminé et que j'ai pris énormément de plaisir.
Ah ouais. Puis alors, si t'as, donc, puis j'espère que t'as fait la vraie fin aussi.
Là, oui, j'ai fait la vraie
absolument
fin.
Absolument incroyable.
Oui.
Le dernier boss, c'est d'ailleurs très.
Alors,
bien
j'ai pas
aussi,
fait les, par contre, les DLC. Ça, j'ai pas.
DLC
j'ai...
sont absolument mortels.
J'ai pas, fait, j'ai fait que le, la vraie fin, mais j'ai pas fait les DLC. Donc, mais beaucoup aimé, ouais, effectivement.
Bon, enfin, la liste est longue, mais on va pas continuer.
La liste est trop longue.
Beaucoup de souvenirs.
Je te laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, le coin de la fin, le coin. Non,
ouais, ça, ouais, ça, on va ça, trouver ça, pour la prochaine
surtout,
fois.
Surtout, merci à tout le monde, c'était hyper cool.
Ouais, merci et beaucoup. Puis,
merci à vous.
Je pense qu'on
merci
se fasse
énormément
des,
à vous.
On se fasse des bisous pour la fin.
Oui, la fée vitraire.
Ouais, sur le canapé. On va passer une nuit magique.
Une nuit magique.
Il a sorti son stick magique.
Il
a sorti son stick
sa baguette
magique,
et on va terminer. Et ça va être génial.
Ouais, ça vaut la peine d'écouter jusqu'au bout.
Voilà. Puis merci. Puis merci à tous les auditeurs qui ont écouté jusque-là.
Jusqu'ici, ouais, de votre intérêt.
Et on vous souhaite beaucoup de plaisir. Et il ne faut absolument pas hésiter. À venir sur notre site internet ou par n'importe quel autre moyen, à nous écrire des messages si vous avez des complaintes, si vous avez des
lettres d'amour,
des lettres d'amour, n'importe quoi, en anglais, en japonais ou en français.
Et puis bien
sanskrit,
sûr,
sanskrit, grec,
sanskrit, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui, on trouve votre jeu depuis quelques jours sur PC,
sur Desura,
ok, ouais. au prix de
alors maintenant c'est les soldes, il est à 1,79€.
Ouais, c'est ce qui me semble que j'ai. Et puis quand il sera plus en solde,
il sera 3
euros, ouais.
Mais on n'a pas encore décidé. On n'a pas encore décidé quand les soldes s'arrêtent.
Au travail qui a été mis dedans, ils peuvent y aller. Le seul truc qui va leur coûter cher, c'est le stick qui va avec. Mais
si vous voulez vraiment jouer correctement,
si vraiment vous voulez jouer correctement,
non, mais on va
c'est
faire
mieux.
Un patch pour pouvoir jouer à la souris comme les bons shooters.
Bon, alors merci à tous.
Merci.
Et puis à la prochaine.
Yes.
Bye.
Bye.
Uncoin the pixel.